bonne journée, bonne fin d'après-midi, surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le vendredi 15 septembre 2017 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 36e volet de l'Entrepod. Et oui, mes gaillards, et oui, mes gaillards 2, nous sommes toujours là, nous reprenons du service pour le 5e, 6e, bientôt 10e saison. Oh putain, que le temps passe vite quand la bonne humeur et la franche rigolade est présente. En forme, motivé comme jamais, je vais vous présenter cette équipe de bras cassés et de saltimbanques qui devrait animer cette nouvelle saison. Tiens, qu'entends-je ? C'est l'appel de régiment de l'Entrepod. Présentationnement de l'équipe qui parle dans le micro. Et oui, il fait toujours partie du bataillon. Lui, son arme, c'est de balancer sur l'ennemi tout un tas de livres à faire déprimer des clowns. Il devrait nous présenter cette année Attraction vers le bas de Marie Palaguache. Et quand je vais bien, je suis malheureux de François Desprima. J'ai nommé adjudant Christophe. Oh, que ça fait plaisir de te voir reprendre du service. C'est un spécialiste des arts martiaux. Il prend des cours avec un moine Shaolin. En deux séances, il est capable de balancer sa jambe en grand écart facial sans s'en briser une. C'est pas des testicules qu'il a, c'est du béton armé. J'ai nommé Caporal Lulu.
Salut.
Tous les matins, c'est pas un clairon qu'on a pour le réveil. C'est pas non plus une saleté d'enceinte Made in China. C'est pas non plus les cœurs de l'armée rouge. Non, elle, c'est toute seule pour ça. Elle te réveillerait une troupe de sourds rien qu'avec les vibrations de ton organe. C'est simple, ils ont essayé de nous la piquer pour la placer dans une unité de gériatrie des anciens d'Indochine.
Il a fini sa soupe, le papy !
J'ai nommé première classe Didouille.
Salut.
Lui, bon, il a raté les paras, il a raté la Légion, il a raté la gendarmerie, il a raté son train la dernière fois. Vous pensez qu'il aurait raté l'Entrepod ? Eh ben non, forcément, il avait tout ok, sauf la taille. Mais bon, comme nous avons besoin d'un pourcentage handicapé dans l'équipe, il a été retenu. J'ai nommé Brigadier Arnaud.
Ah bah, je voyais pas le coup venir. Bonjour.
Et dans une bonne équipe, il faut de la discipline, il faut de l'ordre et du Neuchâtel. Armé de son savoir et de son professionnalisme, il nous revient avec son quiz à faire pâlir un Viet dans une forêt du 13e arrondissement de la capitale. J'ai nommé lieutenant Freddy.
Salut.
Pourquoi il n'y a plus de musique ? Artiste parce qu'elle a baissé. Elle fut responsable du mess de Charleville-Mézières, troisième riman des parachutistes. Plus précisément de la section boisson-soif, on s'en jette très bien avant d'attaquer la bataille. Elle a fini sa course sous naturellement l'Entrepod. Quand elle boit un peu trop, elle nous fait beaucoup rire. Elle devient un vrai Melbrin. J'ai nommé Fanfaronne Starlet. Et pour commander cette troupe d'incapables et d'incultes, il me faudra 3 jours le métard. Il nous fallait une personne à poigne, une personne qui a parcouru tous les recoins de l'agglomération rouennaise, un mec qui en a une sacrée paire, un vrai tatoué qui est amoué, un dieu sur son piédestal, mais en uniforme, c'est pas un PD. Je redonne les clés du bataillon, j'ai nommé maréchal chef des logis, Nico.
Gare à vous. C'est Arnaud.
C'est peut-être moi ça.
C'est pas du tout.
Gare à vos oreilles.
Ah non, ça c'est pas Arnaud, c'est toi ça.
Ah non.
Non, c'était moi. Excellente présentation.
Excellente présentation, Marius, dis donc. Ouais, alors, c'est quoi l'accent ? J'ai pas compris.
C'est le prêtre reconverti dans l'armée, je pense.
Ok.
Eh ben écoute, c'est sympa, Marius, de te retrouver là, comme ça, notre micro avec tes intros en vrai. Parce que la dernière fois, tu nous l'avais envoyé, il me semble bien, chez Mickaël.
Tu l'avais enregistré.
C'est quand, c'est quand même pas pareil quand tu t'es là. Hein, quand, même,
quand je bafouille et que je bégaye.
C'est le charme du truc en fait.
Exactement. C'est surtout très visuel, vous avez remarqué qu'à chaque fois, il fait ses intros. Mais il gonfle le torse, vous avez jamais remarqué. C'est pour donner du courage.
Alors que moi, quand je fais une intro, je gonfle pas que le torse.
Vous voyez, on est en pleine forme, on est tous requinqués, revigorés.
Ça fait plaisir de vous retrouver.
Pour cette reprise, pour ce mois de septembre et cette 5e année qu'on attaque déjà. Hein.
Oui,
vous vous rendez compte ?
5e déjà ?
Non.
5e ?
Bah oui, c'est la 5e saison qui commence.
C'est ma 4e.
On voit pas le temps passer.
Non, toi,
non, c'est moins que ça, t'as pas fait.
T'es arrivé l'année dernière.
C'est ma 3e officielle.
On voit pas le temps passer quand on s'amuse.
J'étais intervenu sport.
Voilà, on est d'accord.
Il y a 4 ans.
On ne devait pas réélire le bureau pour que Guir vienne.
Qu'est-ce que ça passe vite quand on s'amuse,
n'est-ce pas ?
Bah oui.
Et donc bah on revient avec avec nos bonnes habitudes, notre bonne humeur. Comment ça va les uns les autres ? Vous avez passé des bonnes vacances ?
Oui.
Ah ouais.
Bien.
On a failli pas revenir même.
Ah bah ça, tu nous raconteras peut-être. Ah non, tu nous raconteras pas finalement.
Tant pis. Ça va vous saouler, c'est long.
Tant pis.
Ah bah. On l'a déjà entendu plusieurs fois.
En tout cas, bah, on est content de vous retrouver. On va réattaquer cette nouvelle saison là sans invité aujourd'hui. Hein,
voilà.
On avait trouvé que c'était bien l'année dernière, c'était un peu foutraque, mais au moins on était content de se retrouver.
Et on va essayer de s'auto-discipliner.
C'est un peu dommage d'emmener quelqu'un dans cette galère, en fait, surtout pour la reprise. Donc voilà, on va partir comme ça.
C'est bien, sans invité.
Merci pour cette intervention.
Ils nous font chier, ces cons-là.
Donc on retrouve nos, comme il n'y a pas d'invité, on a beaucoup de rubriques de l'Anthropode cette fois-ci. Donc moi-même avec les fonds de tiroir, Starlette,
moi j'ai rien.
Ludo nous revient avec une madeleine de prout,
petite. Hein. Ouais, une petite sympa.
Sympa qui passe bien.
C'est un petit prout.
Christophe, un petit bouquin, je suppose.
Oui, alors je préférais évidemment Marius quand tu faisais tes blagues foireuses sur ma chauvitude. Parce que là, du coup, les bouquins.
Il est comment le bouquin là qui est présent ?
Ça va donner envie de lire à personne.
Comment tu as dit ? Palaguache, c'est comment celle-là ?
Ouais, c'est.
Valérie Palaguache.
Marie Palaguache.
Marie Palaguache, c'est Marie Palaguache.
C'était en lien avec. Enfin, en référence à Donatarte. Non, rien à voir.
Non, même pas.
Et le titre, c'était comment ? Marie Palaguache ?
Il faut que je recherche. Voilà. Attraction vers le bas de Marie Palaguache.
Attraction vers le bas, Marie Palaguache, c'est excellent.
Et quand je vais pas bien, je suis malheureux. Quand je vais bien, je suis malheureux de François Desprimin.
Ouais, celui-là est facile.
C'est pas foulé.
Non, c'est pas foulé. Je suis d'accord.
C'est vrai, je vous emmerde.
Attraction vers le bas de Marie Palaguache, c'est quand même excellent.
C'est pas mal, ouais.
Mais vu que Marius a l'air en pleine forme, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, il a une rubrique. Donc, on va pouvoir aussi réécouter son petit jingle. C'est toujours un petit plaisir.
Non, on a dit qu'on le faisait à deux, ça. Hein.
Oui,
c'est une rubrique, j'avais un film quoi.
Et Freddy nous fera un petit.
Un quiz
Non. Oui, d'abord, il va nous présenter d'abord l'album de la rentrée selon lui.
Ah oui.
Donc, Ah oui.
Ça, c'est Despacito, vous avez.
Ça, c'est ça. Je crois que j'ai même pas écouté en fait. Tu sais que c'est carton, mais. Ouais. Mais bien sûr, que serait l'Anthropode sans celui qui nous a rejoint en cours d'année qu'on subit, enfin en cours de lancement qu'on subit, Jean Robert. Qui viendra nous faire un bilan de la saison écoulée.
Ouais, bon. S'il arrive à l'heure.
Ouais,
il
faut espérer qu'il soit là.
Visiblement, il y a un problème d'heure dans le coin. Mais je vous propose, sans plus tarder, de commencer avec une rubrique. Bah, Christophe, on avait pris l'habitude de commencer avec tes rubriques littéraires.
Avant que l'ambiance se détériore.
Enfin, tu vas y contribuer, je pense. Donc...
si je commence le premier, peut-être pas.
Ah peut-être oui, vas-y, fais-nous rire. Si
tu laisses un petit peu d'espoir. Eh ben, on va quand même te laisser un petit jingle.
Et c'est ça. Il vient de raconter un exemple que c'est tout, que c'est intéressant. Et c'est ça, je trouve c'est important.
Alors, que trouves-tu d'intéressant cette fois-ci ?
Alors, je vais vous parler du troisième volet de la saga de Virginie Despentes, Vernon Subutex, donc tome 3. Je ne sais pas s'il est drôle ou s'il est déprimant. Vous jugerez drôle, par vous-même.
Il est drôlement déprimant. Oui,
il est drôlement déprimant. Ouais, c'est pas bête, ça. Donc, c'est le dernier opus de sa trilogie. Je ne sais pas si on peut appeler ça une trilogie, mais j'avais ici même évoqué en février 2015, le tome 1. Et donc j'attendais avec impatience la suite. Il a fallu 2 ans avant que Virginie se décide à écrire la suite et la fin. Mais donc pour se plonger dans le dernier tome, et c'est un peu la difficulté de cette chronique, c'est qu'il est quand même quasiment indispensable d'avoir lu les deux premiers. Je crois qu'il y a Carnot qui les a lus.
Oui.
J'ai lu le premier tome, mais c'est
pareil.
C'est tout. Ah, donc tu sais quand même de quoi ça parle.
Oui. Un petit peu, ouais.
Et donc, c'est pas forcément facile de parler de ça.
Sans spoiler trop.
Sans trop dévoiler l'intrigue et l'intérêt du livre. Bon, un tout petit rappel quand même. Le tome 1, en fait, part de Vernon Subutex, qui est un ancien disquaire, qui s'est retrouvé SDF, et donc, malheureusement, un peu dans la dèche, hein, comme tous les SDF. Mais il est en possession en fait, d'un enregistrement testamentaire d'un chanteur populaire, Alex Bleach, qui est décédé d'une overdose. Et chacun, en fait, plusieurs personnes cherchent à s'approprier cette vidéo, pour diverses raisons, que je tairai ici. Mais Vernon, lui, cherche simplement à survivre, en fait, et à reprendre contact avec ses anciens amis. Dans le tome 2, on retrouve tous ces anciens amis qui se sont réunis autour d'un concept assez intéressant qu'on appelle les convergences. Et les convergences, ce sont des soirées animées par Vernon qui remixe les anciennes musiques d'Alex Bleach, le musicien disparu dans le tome 1, Et dans ces convergences, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune revendication. Les gens viennent danser, voilà, viennent, comment dire, retrouver un petit peu d'humanité, retrouvent une forme de sociabilité, de respect, de plénitude, etc. Et tout ça sans consommer de drogue. C'est un concept assez intéressant. Mais à travers ça, ce qui se transparaît, c'est que c'est juste la magie de la musique, en fait, qui est sous-jacente à ce concept. Et dans le sens où la musique permettrait de relier les âmes, en fait, comme une sorte d'élément un peu fédérateur et qui sortirait un peu du côté commercial de la musique qu'on connaît tous. Dans le troisième tome, j'aborde donc le sujet. Cette communauté, finalement, elle est relativement fragile. Et suite notamment à un legs d'une grosse somme d'argent par un des anciens communautaires de ces convergences qui finit par mettre à mal le groupe. Des disputes éclatent, les personnages doutent les uns des autres, et puis finalement la communauté se dissout et chacun tente un petit peu de reprendre le cours de sa vie. Mais évidemment, le monde autour d'eux a changé et les premiers attentats ont eu lieu, le racisme se développe. Et les ennemis des deux premiers tomes refont surface, ressurgissent et puis passent à l'attaque. C'est pour ça que c'est très difficile d'expliquer.
On sent que t'as du mal
à ne pas donner
plus,
le.
En plus, il est troublé parce qu'on l'a pas coupé pendant.
Ouais.
Personne ne t'a coupé.
Tout à fait. Ouais.
Moi, j'ose pas. Hein.
Mais bon, voilà, c'est tout l'objectif de cette intrigue, en fait. C'est-à-dire que. C'est-à-dire qu'il y a... Non, je peux pas le dire.
Est-ce que tu veux que quelqu'un te coupe pour t'aider, peut-être?
En tout cas, avec ce dernier volet, Virginie explore à nouveau notre société contemporaine et nous la restitue magistralement.
Ah putain, il y a quand même pas, genre.
Il y en a deux.
Tu vois, ça va aller vite. Et sous forme d'instantané assez percutant, enfin, moi, je trouve. Comme si le monde, en fait, basculerait dans une sorte d'aliénation. Et donc, tous les événements du quotidien, en fait, sont passés au crible, des plus tragiques, ceux que nous avons tous vécu, mais aussi un tas d'autres, comme l'addiction aux écrans, la mutation des adolescents à travers ces écrans, les relations au travail, au sein du couple, au sein des groupes, la peur des religions, des étrangers, des migrants, la loi travail et le mouvement Nuit Debout aussi, également dedans, et le fossé qui se creuse entre les différentes classes sociales, et les incidences politiques et la montée des extrêmes. Donc cet épisode est, à mon avis, le plus noir de toute la saga, mais aussi le plus ancré dans la réalité. Et ce qui est très fort avec Virginie Despentes, c'est qu'elle ne porte pas de jugement, en fait. Elle ne fait que relater, et elle décrit les situations.
Désolé.
Alors, pour décrire la situation qui est à côté de moi, c'est un peu dur parce que il y a une espèce de grosse bouche en chocolat bien baveuse avec des dents noircies. Hors sujet complet. Donc, je disais donc qu'elle décrit toutes les situations et notamment à travers ses personnages avec beaucoup d'empathie. Bon, parallèlement, elle développe quand même un certain optimisme à travers ses convergences, ces espèces de soirées un peu atypiques. Où elle développe cette fraternité et le collectif qui prendrait en fait le pas sur l'individualisme et où la musique en fait est toujours présente tout le temps et qui formerait donc cette espèce d'élément fédérateur universel. Quant à son écriture, Virginie, c'est du Virginie Despentes, hein, autrement dit c'est magistral et jubilatoire, enfin moi je trouve. Son style est très reconnaissable, on pourrait qualifier son style de rock. Puisqu'elle fait souvent référence à la musique, donc j'ai trouvé que c'était un terme qui s'appropriait bien. Et surtout avec beaucoup, beaucoup de lucidité. Je trouve qu'elle a un regard sur la société qui est vraiment hyper pointu. Et voilà, je trouve qu'elle ne se trompe pas, en fait. Alors, juste petit bémol, quand même.
Il en fallait un.
C'est sur les 6 dernières pages du livre.
Donc, c'est gros, c'est la fin.
Oui, mais non, c'est pas tout à fait la fin. Enfin, c'est la fin, mais... C'est-à-dire que...
Attention les gars, attention au spoil quand
non,
même.
Non, je ne vais rien spoiler du tout. C'est-à-dire que tout le déroulé de son livre nous amène vers une fin qui est plutôt ouverte, plutôt bien faite, je trouve. Et puis, tombe à la fin 6 dernières pages. C'est une espèce de chapitre en plus. Tu te demandes ce que ça vient faire là. Et j'ai l'impression que ça dessert l'ensemble, justement. C'est-à-dire que ça n'apporte absolument rien à tout ce qu'elle avait préparé. Ça le dessert. Pour moi, c'est l'égarement de trop. Quoi. Ouais. Franchement, je trouve que c'est vraiment dommage parce que tout ce qu'elle a préparé avant pour amener vers cette fin ouverte se suffit, en fait. Et on se demande pourquoi ces 6 pages sont là.
Il y a des explications, des interviews où elle explique un peu ça, non c'est pas, vous avez
Non,
pas
j'ai, de... j'ai essayé de chercher.
Justement, j'ai pas trouvé.
Moi, j'ai cherché et personne. Personne
ne réagit là-dessus, en fait.
Toutes les critiques que j'ai pu lire, personne n'a relevé ce...
Or, effectivement, quand on en a parlé...
Mais les critiques, ils ne lisent pas les livres, de toute
façon. Mais pas jusqu'au bout.
Ou pas jusqu'au bout.
C'est peut-être la preuve.
C'est ça, en fait. Mais vraiment, c'est...
Arnaud, tu as eu le même ressenti, c'est ça ?
Totalement.
Ces 6 dernières pages...
Tu peux lire... Vraiment, il faut lire les 3 tomes. Vraiment, je partage entièrement l'avis de Christophe. Après,
il y a ce partage d'avis de.
Ouais, totalement.
Délirant.
Ça va bien, toi, en ce moment, ou pas ?
Mais, hey, vous vous protégez, par contre, les gars. Hein.
Oh putain.
Vous n'avez pas compris.
Ça me semblait bien, ça m'est bien.
Bon. J'avais pas
passons.
Ça fait du bien de se retrouver quand même.
Ça ne doit pas empêcher de lire les 3 tomes, c'est formidable.
Non, mais après, c'est votre vie, ça nous empêchera
rien.
Faut
juste savoir qu'il y a 6 pages
dans le livre.
On ne spoilera rien. Les 6 dernières pages, dont on peut se dispenser, à mon avis.
Ouais.
Presque même, je conseille de ne pas lire les 6 dernières pages.
Ouais. Parce que vraiment, ça n'apporte rien. Et au,
ça gâche un peu, en fait.
Au-delà c'est même nul, de ne pas apporter
dommage,
quelque chose, ça enlève.
Parce que oui, si ça gâche, ça c'est dommage.
Oui, mais ça vient vraiment ternir l'ensemble.
C'est étrange et ça arrive vraiment sur les
avec
les
en plus un
6 dernières feuilles.
Alors, moi, j'ai l'impression
que ça les 5 dernières feuilles, mais non, là, c'est les 6.
Moi, j'ai ma petite idée là-dessus.
Est-ce que ce sont les 6 dernières pages pour conclure ou ce sont 6 dernière page débuter autre chose.
Sinon, on va spoiler.
Il n'y a rien du tout que derrière. Putain, oh, ça sent le spoilage.
Ma petite théorie là-dessus, comme toute la fin qu'elle a amenée et qui est très ouverte, elle s'est dit peut-être que les lecteurs attendent un tome 4. Et en faisant ces 6 pages, en fait, elle met fin à toute possibilité du tome 4. Voilà, c'est mon avis. Maintenant.
Fais gaffe parce que là vous.
C'est pour ça que je ne dis rien.
Ne parlez pas trop. On sent que vous en dites beaucoup.
Bah non, on ne dévoile rien en fait.
Bah non, mais c'est juste que du coup moi j'en tire des déductions et c'est vous voyez ce que je veux dire.
Parce que
c'est
t'es mon imaginaire. Intelligent.
Mais c'est un peu ça, bah, c'est mon problème. Hein.
Non, je crois...
écoute, moi il n'y a aucune image qui me vient.
De quoi on parlait au fait ?
Non, mais je crois que tu peux pas imaginer la fin.
D'accord. Bah tant mieux. Est-ce que tu vois une. Une adaptation ciné ou quelque chose
que
de ce truc-là.
Tu vois la lumière.
Tu vois une psy.
Ouais.
Est-ce que tu vois quelqu'un en ce moment?
Je vois.
J'y pense parce que si tu parles pas mal, c'est assez visuel dans ce que tu présentes et puis musical aussi. Donc ça pourrait être des déclinaisons sur d'autres supports peut-être.
Ça pourrait presque être une série en fait.
Un film ou
plutôt une série.
Une série courte.
Plutôt une série qu'un film. Parce qu'un film ce serait un peu long.
Tu m'étonnes, 3 tomes.
Non, mais c'est vrai que les personnages sont tellement.
Elle a
une manière d'écrire, et ça c'est valable dès le tome 1, qui fait que on connaît beaucoup de choses des personnages, de ce qu'ils pensent, etc. Je pense qu'il n'y a qu'une série qui permettrait de retraduire cette profondeur-là des personnages.
Ou un dessin animé, Subutex Avery.
T'as dit quoi,
Subutex Avery.
Oh, pas mal joli.
Ou un film porno, Subutex Cité.
Ludo, en reste quoi?
Là, je cherche en fait.
Mais quand tu cherches, on dirait que tu restes quoi?
C'est ça. Subutex, moi partout?
Arrêtez avec Arnaud comme ça, là, on le voit.
Bon, en tout cas.
Ou un programme scientifique, Subutex, sas instrument.
On va arrêter.
Non, la saison démarre sur des super bases. Non, vraiment, je crois.
Pour les poditeurs nés après les années 2000.
Ça doit exister encore, Texas Instruments.
Subut exaspère.
Ouais.
Ouais.
Oh,
joli. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Donc, toujours est-il que cette trilogie, pour moi, est plus qu'un roman. En fait, c'est une véritable chronique. C'est une véritable chronique du temps présent et qui vient soutenir justement très habilement l'intrigue. C'est-à-dire qu'elle elle se sert de des travers de la société française pour monter une intrigue qui est vraiment plutôt bien ficelée à mon goût. Le plus dérangeant quand même finalement, donc je vais finir par une note un petit peu pessimiste.
Triste.
Non, pas triste, pessimiste.
Oui, bah oui.
Le plus dérangeant,
il y a
je
le pessimisme
que...
gay. Hein.
Ouais, le plus dérangeant, c'est
pas de rapport avec le fait qu'on partage.
C'est qu'au travers de ce livre, finalement, on comprend que rien n'est exagéré en fait. Elle n'exagère rien. Elle ne fait que relater finalement le malheur qui existe partout et que l'on a trop souvent tendance à ne pas regarder ou à fermer les yeux.
C'est d'amplificateur quoi.
Voilà.
Notre société.
Et ouais, voilà, on ferme les yeux face à cette société qui est quand même assez divisée et dévastée quand même et qui essaye de lutter pour conserver un minimum d'humanité. Et juste... tout ça, elle le met vraiment en exergue quoi. Et je trouve que c'est vraiment fort pour ça.
Et justement, est-ce qu'elle n'appuie pas elle force pas trop le trait,
non,
justement. C'est ça la question,
pas.
Parce que ça pourrait être aussi.
C'est réellement une prise de position.
C'est vrai qu'on est quand même dans une époque assez cynique, avec ces choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté
elle rajoute un coup de. Non, il n'y a rien d'exagéré. Tout est subtilement dosé, franchement.
En fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas de prise de position, puisque finalement, en allant dans la tête de chacun des personnages, elle fait une photographie de ce que peuvent penser plein de gens dans la société, mais des choses très très contradictoires les unes avec les autres. Donc. Finalement, quand ça va loin, c'est finalement que t'as affaire à quelqu'un qui est raciste. Qui est... Mais du coup, tous ces points de vue-là ressortent.
Elle cherche à faire questionner le lecteur sur sa propre vie au sein de cette société.
C'est un peu ça. Et c'est...
Tu présumes pas qu'il y a un des personnages. Quoi.
Non, voilà.
Et oui, c'est exactement ça, en fait. C'est un cliché, en fait, c'est une photographie de la société française à un instant T. Avec tous ces travers, il y a aussi des bons, il y a des bonnes personnes quand même, il n'y a pas que des tarés. Mais surtout, c'est que je trouve qu'elle a vraiment utilisé un petit peu tout ce qui s'est passé dernièrement dans nos vies, en fait, à tous. C'est-à-dire,
ça a l'air de l'avoir marqué beaucoup. Quoi.
Voilà, les attentats notamment, mais aussi les mouvements Nuit Debout, tous les phénomènes politiques qu'il y a eu au moment de l'élection, avec ses extrêmes, ses montées des extrêmes, etc. Enfin, voilà, elle se sert de tout ça pour bâtir son intrigue dans ce contexte. Et franchement, moi, je trouve que c'est très fort.
Puis moi, avec une écriture, enfin, il y a des moments où il y a des passages dans le bouquin qui m'ont fait penser à Elroy, parce qu'il y a des parties qui deviennent vraiment très
polar,
très noir, très
complètement. Ouais.
Ouais. Donc,
j'ai lu certaines critiques qui disent que ça pourrait presque être un polar, en fait, finalement. Mmh. Même si moi, je le trouve pas forcément, parce que
il y a de tout.
Il y a pas une intrigue policière, mais c'est ça. Ouais. Mais bon, voilà. En tout cas,
jusqu'aux 6 dernières pages.
Si vous allez.
Moi, j'ai tombé des mains. Donc,
si vous avez.
Moi, j'ai le premier, accroché à mort.
J'ai lutté. Puis maintenant, j'ai dit, c'est un acharné, je vais lire
autre chose.
J'ai enchaîné les deux en une semaine, les deux premiers. J'ai fait comme Christophe, j'ai attendu. Ouais. Et pourtant, j'y allais super réticent. Parce que moi, Dépente, même quand on avait parlé, ça ne me branchait pas. Puis finalement.
Moi, j'aime beaucoup son style. Parce qu'elle est. Elle est tranchante, en fait, dans ses écrits. Et elle va droit au but, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas des phrases alambiquées à 15 mètres pour dire quelque chose. Elle le dit franchement, direct et de façon plutôt...
Incisive.
Ouais, c'est plus qu'incisif, en fait. C'est,
cru, on peut dire aussi.
Naturel, ouais, mais c'est réaliste, en fait. Ouais, c'est-à-dire que...
Je repense à Baise-moi, que j'avais lu il y a quelques années.
Tout à fait.
Ah, c'est elle ?
Ouais. Oui, c'est très cru. Ouais. Il y a aussi, il y en a d'autres.
En fait, avec Christophe, c'est parti comme ça. C'est lui dire le titre d'un livre et puis
on met le doigt dans, mot, quoi. Dans un engrenage.
En fait, c'est ça. Je lui dis, as-tu lu Baise-moi ? Il a retenu Baise-moi.
C'est l'attitude d'elle. Il t'a dit quoi ? Il t'a pris au mot, c'est ça ?
Oh là là, joli.
Eh ben, merci.
En tout cas,
tu recommandes.
Je vous incite vraiment à lire cette saga, parce que c'est pas vraiment une trilogie, c'est plutôt une saga.
Je coupe tout de suite ceux qui ont envie de la faire.
Et même Nico,
Freddy.
Essaye de te replonger dedans, tu verras que.
Sur Mega Drive.
Enfin, peut-être que tu.
Je vais peut-être, mais j'ai tellement de choses à lire que réattaquer un bouquin qui m'avait pas plu la première fois. Ouais. C'est bon.
C'est Virginie qui lit.
Comme si t'avais pas le temps.
C'est vrai que maintenant j'ai un peu plus.
Mais c'est étonnant que tu
n'aies
pas réussi à rentrer dans son univers parce que je trouve qu'elle accroche tout de suite quoi.
Enfin moi, je vais essayer de lire le premier, mais il faudrait me le filer quand même. Je vais essayer.
Si tu veux.
Quand même, je vais essayer.
Vas-y, je vais essayer moi peut-être. Si ça passe si lourd pour qu'il tombe de mes mains.
Puis c'est facile à comprendre, j'avoue.
Et puis bah si parmi les auditeurs il y en a qui ont une explication sur les 6 dernières pages ou quoi.
Eh bien
que
on
soit,
fait ou gagner les interagissants
ou qui n'êtes pas si vous n'êtes pas d'accord avec l'interprétation de nos deux loustiques à la table, que vous trouvez que c'est complètement cohérent avec tout l'ensemble, n'hésitez pas
à intervenir en message privé de manière à ne pas spoiler Ludovic qui ira lire sur Facebook les interventions des uns et des autres. Merci beaucoup d'avance. Au revoir.
Par contre, loustique, on n'a plus le droit de l'utiliser depuis 95.
Pardon mes chéris, on y va.
Bon Dieu.
Eh ben tiens, Freddy, puisque tu l'ouvres, ça va être à ton tour.
Ah.
Es-tu prêt?
Eh oui.
Je remercie Christophe quand même pour sa rubrique.
Merci,
ouais, qui a quand même essuyé les plâtres pour cette rentrée. Il est allé franchement.
Oui, c'est
sans reproche.
On a très peu coupé.
C'était calme. C'était calme.
T'as vu, il y a une espèce de respect là.
Je me suis dit.
Je me suis dit, c'est la bonne heure, faut y aller.
Subutex extraterrestre.
Subutex Saco.
Non, c'est pas la bonne heure.
Une demi-heure de réflexion.
Tu sais que son prénom c'est Vernon, donc essaye avec Vernon, peut-être que.
Non, mais essaye pas en fait.
Où est Subutex Ideamest?
Où monte la jolie Subutex?
J'allais dire, Vernon, c'est dans l'air.
Oh, Gaillon, c'est mieux.
Vernon.
Gaillon.
Donc, Freddy, à ton tour de nous parler musique.
Jingle.
Non, mais comment? Mais vous ne me reconnaissez pas? Nous sommes tous ici sous le choc de l'émotion. Ah, et ben après ça, croyez-moi, on sent mieux.
Alors, Despacito.
Quand même, j'écoute ce truc-là.
Mais je sais pas à quoi ça ressemble, mais il paraît que c'était le tube de l'été qu'on a entendu.
Nico va le mettre en lien sur le site de l'Anthropode.
c'est quoi
histoire de lui faire 12 vues.
C'est le tube de l'été, ça s'appelait Despacito.
Despacito.
Ah, c'est plus que le tube de l'été.
J'ai même pas écouté.
C'est le regard, c'est le.
C'est
ce qui a été le plus vu en streaming. Ça a dépassé.
C'est Gangnam Style.
Est-ce que. Ouais, voilà, c'est ça qui a dépassé en nombre de vues.
Il paraît que c'est très sensuel, les paroles.
Ouais, enfin, c'est pas. Ce qu'il y a, c'est qu'a priori, c'est que ça a bien marché en Amérique du Sud où les gens.
Je connais pas.
Les paroles, c'est.
C'est original la musique en ce
moment. Je suis sûr de ne pas l'avoir entendu de l'été.
Par contre, je suis absolument sûr de l'avoir déjà entendu dans les 20 dernières années.
Collez-toi à moi, la soirée va nous coller.
Je ne dois pas vivre sur la même planète.
C'est surtout que si tu écoutes France Inter, tu ne l'as pas.
Ah bah, c'est ça.
C'est bizarre. La dernière fois que j'ai lu un tube de l'été, moi, c'était.
La Lambada.
La Lambada avec Orangina.
C'est pareil, ouais.
C'était il y a 30 ans. C'est dingue. Bah quasiment.
Oui, c'était Tropique au
compteur. Bah non, parce que t'as eu la Macarena après.
Tropique au compteur. Mais je me souviens vraiment de.
Change pas.
C'est vrai.
Tu te rappelles de ça?
Ouais.
De quoi?
Tropique
au compteur.
Ça c'était pas les
Change
de l'été,
pas de moteur.
Non, ça c'était les années 80, les gars.
Je connais pas, moi.
On va peut-être laisser Freddy faire sa rubrique.
Non, mais.
En même temps, t'as bien fait.
C'est bien fait pour moi, j'ai lancé là-dessus.
Tu disais quelque chose après. Je sais plus quoi. Vas-y, Freddy, vas-y.
Alors, non,
quand ça te revient,
je vais pas du tout vous parler de ça.
Oh, c'est dommage.
Je vais parler d'un groupe qui s'appelle The National.
Ah oui.
Et qui vient de sortir un album. Je vais laisser Marius dire le titre de l'album, si tu veux bien.
Reculé. Sleepwell Beast.
Tu peux ne pas le dire en arabe.
Sleepwell Beast.
Alors, bah, c'est bon.
Sleepwell Beast.
Sleepwell Beast. La bête.
Alors, The National, c'est l'un des groupes les plus classieux du monde. Je pèse mes mots.
Ça fait longtemps qu'on l'a pas dessus.
Il est de retour avec un album intitulé Sleepwell Beast. Marius vient de le dire. Mais oui, tu l'as bien dit. Je vous parle bien sûr de The National, qui a sorti un album il y a quelques jours, c'était là la semaine dernière. Un album d'une classe, d'une beauté, mes amis. Un peu comme si on prenait du caviar et qu'on se le tartinait dans les oreilles. Je sais pas si vous
Putain, ça fait cher.
Ah ouais, c'est bon. Ouais. Des fois, tu prends le Nutella, tu te tartines dans le cul. Aussi,
alors, j'ai pas osé être aussi grossier. Et c'est l'autre qui sort.
Le problème, alors que tu te serais tartiné le caviar dans le cul, c'est tout de suite moins grossier. C'est plus classe.
Ouais. J'espère que vous avez une rubrique tous les deux après que je puisse bien vous faire chier.
Et surtout que c'est quoi l'intérêt de se tartiner le caviar dans les oreilles?
Lui, il a de la chance qu'il a déjà fait sa rubrique, il est tranquille.
C'est super sensuel. Tu vas aller lécher le caviar dans l'oreille.
Oui, mais si tu veux,
si c'est dans le trou du cul.
Si tu mets ton casque pour écouter The National et que t'as plein de caviar dans les oreilles, c'est
une licence poétique.
En fait, je prends Arnaud à témoin. Vous voyez l'image, mais en fait, il m'a donné la réponse avant. Il voit pas l'image.
C'est vrai, il l'avait écrit.
Alors, tout de suite, je vous propose d'écouter un morceau pris au hasard. On aurait pu prendre n'importe lequel, tellement l'album est homogène.
J'ai mis celui que tu m'as donné. Hein.
Ah ben, ça tombe bien. Allez, on voit le caviar, Nico.
Halfway there, young mothers love me, even go so.
Alors le morceau s'appelle Day I Die, vous l'avez peut-être entendu dans le
refrain. Oui, il l'a répété.
Carrément en fait, j'ai compris.
C'est même Marius, c'est vous dire. C'est propre, c'est passé au Mirror, ça brille, c'est puissant, c'est à écouter de toute urgence. Pour la petite histoire, donc The National, c'est un groupe américain. Wikipédia nous apprend d'ailleurs qu'il vient de Cincinnati, mais j'ignorais. Je savais qu'ils étaient américains, mais j'ignorais. Et il a été créé en 99. Et peut-être que les fans hardcore rouennais se souviennent que le groupe avait joué ici, chez nous, c'était au Calif, c'était en 2003. Oh, et alors vraiment, ceux qui se souviennent, c'était inconnu ou presque à l'époque, hein, et ils avaient été dénichés par l'excellente association Avis de Passage. Et rendez-vous compte, lors de cette soirée, il y avait aussi Sid Matters sur scène, la gueule du concert. Parce que c'était déjà,
pour 5 balles à l'époque, non, c'est ça?
Bah ouais, ouais. C'était déjà très bien, très très bien à l'époque, je regrette de ne pas avoir découvert ça à cette époque-là.
En tout cas, trop jeune.
Mais ouais, je crois que je sortais pas en 2003, je sortais pas.
Merde.
Mais c'est vrai,
j'étais arrivé.
Mais c'est vrai, en plus, je sortais pas en 2003.
Ah ouais.
Tu peux en parler un petit peu, allonge-toi. Ouais, ouais.
Il était assigné à résidence en fait.
C'était le début de Sortons.net, ça.
De pédophilie. Sans histoire de
sordide.
Vous pouvez pas comprendre.
Et maintenant, ça va mieux.
On vient de forger les zones, hein.
Il vient du Tilray Berprez, ce gars-là. Qu'est-ce que tu veux, qu'il a un accès à la culture. En tout cas, peut-être que les plus cinéphiles d'entre vous, je sais qu'il y en a autour de la table,
tu m'étonnes,
se souviennent peut-être d'avoir entendu The National dans le film Starbuck.
J'ai pas vu Starbuck. C'était
c'est dommage.
Le gars qui cherche sa patte, ses enfants,
ouais,
là,
c'est ça, ouais.
Le film canadien.
Québécois. Ouais.
Ou québécois. Ouais.
Excellent. Et donc on entend ce morceau qui s'appelle Runaway. C'est la scène où on a envie de chialer dans le film.
Runaway,
hein.
C'est
et c'est ça la musique de National.
Non, Starlet, non.
Qui a vu Starbuck autour de la table?
J'ai vu Starbuck.
Moi, je suis déjà allé là-bas.
Ouais, j'ai jamais. Nous, c'était à Roissy Charles de Gaulle.
Nous, c'était.
Je discute est-ce avec ceux qui ont vu.
Est-ce que c'est celle de la foule, entre guillemets? Non.
Je crois que c'est quand il emmène son fils qui est un peu différent des autres.
Est-ce que c'est celle quand tu prends un cappuccino?
C'est bien,
la scène très émouvante. Et puis, alors là, je sais que ça va vous parler. On entend aussi The National à la fin d'un épisode de Game of Thrones.
Ah, j'ai pas vu.
D'accord. C'est exactement l'épisode 9 de la saison 2.
Oh. Ah oui,
ah
ouais.
Bah oui, la clo. Oui.
C'est l'épisode où Galadoc tue Rashomouk et puis. Enfin, désolé pour ceux qui n'ont pas vu.
En le pendant par les globes oculaires. Voilà.
Rashomouk.
J'ai pas vu.
La musique s'y prêtait bien, ouais, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Bon, en tout cas, pour les voir sur scène en France, il faudra pas se louper parce que ça se passe au Pitchfork Music Festival à la Grande Halle de la Villette et c'est le vendredi 2 novembre prochain. C'est une seule date en France, donc faut pas se louper. Sinon, il passe aussi à Londres, Los Angeles, Montréal, Mexico, Sydney ou Manchester. Sinon, il passe aussi dans votre salon ou dans votre voiture si vous achetez l'album, ce que je vous conseille de faire, évidemment.
Tu vas y aller le 2 novembre ou pas, non?
Ben, écoute, peut-être bien parce que je serai tout seul à la maison. Et,
ah bah oui. Mais du coup, il n'y aura plus personne chez toi.
C'est ça où je me drogue. Hein,
mais le juge te laisse sortir maintenant.
Une fois par mois. Ils auront une sortie par mois. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Un peu,
ah oui, oui,
si
oui.
Vous trouvez ça bien.
Bah, ton show que tu as fait écouter, ouais. Je trouvais que ça ressemblait
aussi,
à The Editors. Sans la voix. Il a une voix beaucoup plus posée,
musique,
hein. Beaucoup
ouais,
plus.
Ce que tu veux dire.
Mais j'avais l'impression d'entendre, tu sais, une rythmique de Editors.
Bah, je vous conseille l'écoute de l'album. Il y a rien acheté.
Ouais. Ok. Je crois qu'il y a un des guitaristes qui vit en France d'ailleurs, dans le groupe. Il était interviewé l'autre jour sur Inter. Et, enfin, ça, c'est pas ça qui lui donne son talent, hein, mais
un petit peu quand même. Hein,
c'est pour ça. Ouais, ouais.
Mais je pense que ça lui a apporté.
Entendre cette chronique sur.
Je crois que tu confonds Inter. Il était invité un matin.
Il est dans la. Et justement, il disait, il parle vachement bien français. Et puis, il parlait vachement bien français.
Il parlait mieux que toi, en fait.
En tout cas, vous retrouvez.
Je crois que tu confonds avec The Front National. Mais
j'ai failli la faire. Mais je dis non, c'est mauvais.
Mais ouais, c'est cool.
On vous laisse les références sur le site de l'Anthropode avec le petit clip qui va bien.
En tout cas, ça donne envie de découvrir.
Il est pas très bien. Il est que en noir et blanc. Enfin, je sais pas trop quelle est la technique, mais c'est.
Oui, puis ça donne l'univers du groupe, je trouve. C'est très bien.
Très atmosphérique. Tiens, je vais prendre la parole. Moi,
merci Freddy, non? Ça
oui,
arrache
oui.
Pas la gueule.
Hey, Jean-Robert, t'es pas encore arrivé.
Là, c'est Arnaud, je t'emmerde.
Oh, lui, ça prend de CSS, il va pas me cacher longtemps.
Il avait dit l'autre, c'était sa combien de année?
Ça y est,
je pense que c'est la dernière.
Tu vois, je vais couper toute cette partie-là. Merci Freddy pour ça. Merci Freddy.
Ah ouais, quand et... se dit spontanément comme
ça. Quand ça vient du cœur.
Ça vient du cœur. De rien, chef.
Ça vient du cœur. Eh bien, je vais prendre la suite pour vous parler d'une série, encore une fois.
Et bienvenue parmi nous à nouveau. Alors touche à ton cul. Dago, dago, chabou, tadouti.
Alors là, une série qui est vraiment dans le thème des fonds de tiroir, puisque c'est, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir une série qui est terminée depuis un bon moment maintenant, puisqu'il s'agit de Battlestar Galactica. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Alors la...
Je l'ai vu sur ta commode.
Ouais, c'est celui-ci, voilà.
À côté de mon cul.
Donc,
mon cul sur la commode.
Donc c'est la... Donc ça, c'est la série version année 2000, qui est donc...
un joli coffret que tu nous
Un très joli coffret qui est, hop, pour vous faire passer, qui fait 22 DVD, donc ça pour vous dire que
oui,
ça quand prend même. Quand même pas mal de
Moi,
temps.
Je
oui,
Didouille pas du
oui,
tout.
Oui, bah, c'était pour rebondir par rapport à ce qu'il a dit, Freddy, juste avant. Hein, eh ben oui, moi aussi, je connais. Oui, on connaît Starbucks.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a un personnage qui s'appelle Starbucks dans la série.
On l'a vu,
effectivement.
Starbucks.
Moi je connais pas du tout, tu peux
je vais faire le pitch.
Un peu.
Bah oui, parce que c'est un peu le principe de ma rubrique d'ailleurs.
On pourrait croire
qu'on a répété hein.
Tu ne connais pas Galactica la série ou tu ne connais pas le remake de la série?
Ni l'un ni l'autre.
Ah tiens, c'est...
Non, bah pareil, identique, idem.
Non mais c'est étonnant parce que pour le coup, il connaît pas Galactica du tout.
Je vais donc vous présenter.
Mais fais-nous rêver.
Alors, l'histoire, c'est dans un futur assez lointain qui est pas forcément daté. Donc l'humanité a créé les Cylons. Donc les Cylons, ce sont les robots humanoïdes qu'on peut voir sur l'affiche.
La jaquette.
Et donc à une période, c'est un peu les questions qu'on peut avoir d'ailleurs en ce moment.
C'est un peu comme les rubriques de Ludo, ces Cylons.
Oh, ce que c'est drôle, Monsieur Freddy.
Je t'avais dit. Je t'ai prévu.
Non, mais moi j'ai rien fait.
Il est très joli le coffret. Ouais.
Et donc les questions qu'on commence à voir un petit peu depuis une quinzaine de jours d'ailleurs soulevées par Elon Musk, c'est-à-dire l'intelligence artificielle et les Cylons qui se rebellent contre l'espèce qui les a créés, donc l'humanité. Et donc ça entraîne une guerre entre les deux espèces jusqu'à aboutir finalement à une trêve. Les Cylons disparaissent et les humains n'en entendent plus parler pendant en gros une quarantaine d'années. C'est là que commence la série des années 2000. Puisque un beau jour, les Cylons viennent et se rappellent au bon souvenir des humains qui étaient tranquillement.
Un beau jour, peut-être un Cylon.
Il l'a fait pas, c'est trop chelou.
Et donc le jour où les Cylons reviennent, ils détruisent les 12 colonies humaines qui avaient prospéré depuis la Terre en fait. Donc,
les colonies de Kobol.
Les colonies de Kobol, exactement. Là, on voit que Monsieur est connaisseur.
Pas me prendre pour un blaireau, moi.
Et donc un seul vaisseau est épargné, le Battlestar Galactica, qui est le dernier vaisseau de guerre. Et il est épargné pour quelle raison? Parce qu'en fait, il allait être transformé en musée.
Est-ce qu'on peut faire la musique?
Il était complètement désarmé.
Vas-y, fais-toi plaisir.
Je dois avoir d'ailleurs. Ça, c'est celle des années 78, ça.
Oui, bah oui, excuse-nous d'avoir cet âge-là, connard.
Je t'ai rien.
C'était 78.
Dépêche-toi, chérie, trouve la basket.
Donc là, je mets la musique des années 2000, en fait, qui est un peu plus. Un peu plus feutré, on va dire.
C'est plus compliqué à chanter, ça.
C'est plus feutré. Donc, le Battlestar Galactica était sur le point d'être démilitarisé. Et servait de relique de guerre. Il s'avère que finalement, il va être le vaisseau amiral de la population humaine qui reste dans tout l'univers, c'est-à-dire 50 000 personnes. C'est plus grand chose. Et donc le colonel Adama et son équipage se lancent avec la force du désespoir, un peu ce qu'il leur reste, quoi, vers la Terre, dont ils ne savent même pas si ça existe ou pas, puisque pour eux, c'est dans les livres d'histoire, c'est peut-être qu'une légende. Et donc avec les vaisseaux Cylons qui sont en permanence à leur trousse, donc c'est une chasse-poursuite entre les humains et les Cylons, dont certains sont peut-être même dans leur rang infiltrés, on ne sait pas, etc. Donc on retrouve des thèmes assez post-apocalyptiques. D'ailleurs, c'est science-fictionnesque, mais c'est assez post-apocalyptique.
C'est quand
avec,
même tiré d'une histoire vraie, tu m'avais dit.
Oui, c'est ça. Mais je veux pas trop spoiler, parce qu'après, les gens vont tout de savoir de quoi il s'agit. Et donc, on a comment reconstruire la société par des survivants quand chacun doit s'adapter à des nouveaux rôles, à de nouvelles missions et des nouvelles responsabilités auxquelles on n'était pas forcément préparé. Et puis surtout essayer de collaborer, faire collaborer pour la survie de l'espèce 50 000 personnes qui a priori n'avaient rien à voir ensemble et ça n'est pas forcément tu retrouves pas tout ce qui fait une société avec 50 000 personnes. Donc la série fait 4 saisons et elle est terminée depuis 2009. Alors pourquoi je la présente alors qu'elle est terminée depuis 8 ans maintenant? Déjà parce que moi-même, même si Ludo tout à l'heure avait l'air un petit peu sarcastique auprès de Freddy, je connaissais pas vraiment la série moi non plus avant de l'attaquer. Et avant de la découvrir, j'avais un peu une image négative, puisque ça avait un côté un peu grand guignolesque dans mon imaginaire, alors que j'avais jamais rien vu, mais je sais pas, pour moi ça avait un côté ou un peu daté, cheap à la Star Trek. Désolé les Trekkies qui écoutent, mais voilà, moi c'est les Trekkies, ceux qui les fans de Star Trek.
Ceux qui font les trucs avec les doigts. Hein.
Et comment on les appelle, ceux qui sont fans de Star Wars?
Les Warriors.
Je sais pas.
Les Warriors.
Ça doit être ça. Et donc, malgré tout, après, je l'ai découverte sur le tard, mais ça allait rentrer dans mon top 3 des séries que j'ai pu suivre.
C'est ma préférée.
T'aimes bien ça, numéro 6.
Elle est bonne. elle est bonne actrice, numéro 6.
Et donc, pourquoi j'avais attaqué Battlestar Galactica, c'est parce que, tout bêtement, je jouais à un jeu vidéo qui s'appelle Mass Effect. Un jeu space opéra assez ambitieux, etc. Et je voulais retrouver quelque chose qui soit à peu près dans cette même veine, une épopée galactique, quelque chose de qui appelle vers les grands espaces, etc. Et malgré les a priori, j'ai lancé le pilote et puis ça a été le début. J'ai mis le doigt dans l'engrenage, hein, pour reprendre une image tout à l'heure d'Arnaud Christophe.
Non mais moi je suis désolé, j'ai pas d'engrenage. Hein.
Et donc je me suis enchaîné.
Pas dit que c'était toi qui l'avais.
Je me suis enchaîné les 4 saisons, ce qui représente à peu près 80 heures. Donc c'est vrai que ça peut effrayer de se dire on va se lancer dans un truc comme ça. Mais c'est vrai que pour moi c'est une création qui est assez majeure, qui est ambitieuse, qui est dense, parce que ça traite beaucoup de sujets et pas uniquement de la science-fiction. Il y a des thèmes qui dépassent complètement les canons du genre, comme tout ce qui est la société. Tu parlais tout à l'heure des problématiques de société qui finalement peuvent donner une trame d'une histoire un peu plus grande que ça, des sujets politiques, philosophiques, religieux, moraux, des problèmes de racisme, de lutte des classes, de suspicion quand on n'a pas confiance en son voisin qui peut être un ennemi infiltré, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes.
Même ce que ça engendre au niveau de la sauvegarde d'une population pour une quête, c'est les pouvoirs, les rapports entre les pouvoirs aussi.
C'est ce que je disais pendant que tu parlais à ton mari tout à l'heure.
Non.
Allez, bon.
Elle ne me parlait pas, elle me léchait l'oreille. Nuance.
T'avais encore du caviar, non, c'est ça?
Mais ah, non, c'était pas l'oreille, pardon, les gars.
En fait, j'essayais de me remémorer ce que j'en connaissais. Oui, non, mais je sais bien. Reste que j'ai vu, moi. Les débuts de celle-ci, mais moi je reste quand même assez sur l'ancienne.
Je reviendrai.
Mais c'est peut-être parce que ça me parle plus, parce qu'à l'époque j'étais plus jeune et que ça reste un petit souvenir.
Une grosse connerie que tu couperas au montage. C'est dans cette série-là qu'il y a Bruce Boxleitner ou pas?
Qui elle est cette personne?
Bonnie Tyler, oh, je
pas
non.
Ça.
Là, elle chante.
Non, mais là ça va faire trop. Mais c'était un type qui jouait dans L'homme qui tombe à pic et qui a fait pas mal de séries. Et
L'homme qui tombe à pic.
J'ai le souvenir, oui, avec
Imagers.
C'est dans la version
je
1978
suis
peut-être.
Qui vient de loin.
Non, justement,
celui qui jouait dans L'homme qui est, parce que là, je peux parler. Hein.
Mais peut-être que j'ai dit une énorme connerie.
Non, mais je sais pas te dire. Là, j'ai pas le nom de l'acteur. Je sais pas te dire.
Carrément, le coffret est très joli.
554 euros.
Non, il coûte très cher en fait. Tu peux l'acheter. Non, je l'ai pas payé.
Tu perds pas.
Je l'ai trouvé d'occasion parce que en neuf sur Amazon, ça, je sais plus, sur le Bon Coin il y a quelques années.
En neuf combien?
En neuf, il dépasse la centaine d'euros facile,
ah oui,
voire parce qu'en fait, je crois qu'il est plus édité. Donc c'est-à-dire qu'il reste que des stocks ou des gens qui font monter les prix. Donc alors peut-être que depuis il a été réédité.
Celui-là, il était neuf, tu l'as acheté neuf?
Non, je l'ai acheté d'occasion, tu vois, les coins un tout petit peu abîmés par endroit.
Anos Las Delo, il est à 2 euros.
Si je vous le trouve,
Donc si je continue quand même sur l'histoire. Donc on a quand même des personnages qui sont hyper torturés, rien n'est facile. Donc entre les relations entre humains et Cylons, voire même entre humains et humains, puisque comme le disait d'ailleurs Didou il y a un instant là, c'est pas facile de faire cohabiter tout le monde. D'ailleurs un personnage qui est sur le devant de la scène, c'est un peu je dirais, précurseur vis-à-vis des séries qu'on peut avoir maintenant. C'est-à-dire qu'un personnage qui est le héros peut très bien être au fond du trou quelques épisodes plus loin, quoi. Il n'y a pas le héros infaillible du début à la fin. Je vois Ludo qui a le sourire. De qui, tu veux dire?
Moi, trop dire qu'un héros est au fond du trou, je trouve que c'est plutôt valorisant.
Ouais, moi, je connais Richard Allan.
Donc, à mon avis, même pour quelqu'un qui n'est pas adepte de la science-fiction, on peut adhérer à cette série, parce qu'on ne retrouve pas forcément les codes du genre. Il n'y a pas d'extraterrestres bariolés, il n'y a pas de charabia scientifique, pseudo-scientifique incompréhensible, ou de choses très référencées où seulement les gens qui connaissent certains thèmes peuvent se retrouver. Tout se passe dans un casu huis clos en plus, puisque l'avantage, c'est que malgré l'ambition de la série, ils font tout dans des décors, puisque tout se passe dans les vaisseaux, dans l'espace. Donc c'est que sur des décors. Et c'est basé sur les relations entre les protagonistes qui finalement pourraient se retrouver dans un univers médiéval, un peu comme ce qu'avait fait Star Wars finalement, qui avait posé des problématiques génériques dans un univers de science-fiction. Alors il y a quand même quelques codes qui sont présents de manière ponctuelle, c'est-à-dire des combats spatiaux, faut forcément qu'il y ait quelques vaisseaux qui se tirent dessus,
c'est un
petit peu logique. Il y a des robots humanoïdes, il y a de l'exploration spatiale, voilà, ouais, tout ce qu'on peut retrouver dans la science-fiction, mais vraiment, c'est pas ce qui est le plus important dans la série. Il y a quelques bémols. Alors, il y en a un, c'est la VF, qui pour moi est à bannir. Pour les gens qui aiment suivre en VO, surtout, privilégiez ça si un jour vous attaquez Battlestar Galactica, parce que vraiment, je trouve que ça dénature complètement les aspects dramatiques. Le doublage est pour moi pas réussi et ça casse vraiment l'ambiance. Et puis, certains épisodes qui pour moi sont axés trop sur le côté religieux, mystique, qui là me sortent un petit peu, et là vraiment il y a toute une période, c'est un peu ce qui m'avait gonflé dans Dune par exemple, quand ça commence à partir dans des délires avec le Bene Gesserit et tout ça, ça me plaît moins. Je préfère quand on est vraiment dans des relations, dans un peu de politique, de stratégie, de coups fourrés, de complots, peut-être un petit peu de choses comme ça, c'est un peu ça qui est bien. Il y a une fin qui divise les fans, comme souvent, entre ceux qui ont adoré et ceux qui trouvent que c'est décevant parce qu'il y avait une montée en puissance et finalement ils trouvent que tout ça pour ça. Moi je trouve que c'est quelque chose qui est assez normal parce que quand c'est une série, on s'implique dedans et on idéalise notre fin en fait. Donc forcément, elle peut être un peu en décalage et ça peut décevoir. Moi, je suis ni emballé ni outré. C'est-à-dire que j'ai trouvé que ça tombait un peu comme on avait déjà discuté la fin de Six Feet Under, que j'ai pas trouvé extraordinaire, mais que j'ai pas trouvé nulle. J'ai trouvé qu'elle était normale et qu'elle tombait au bon moment et que c'était une fin top parce qu'elle était parfaite, oui. C'est tout, ni plus ni moins.
Belle fin de série,
quasi meilleure.
Parfaite, voilà. Ni plus ni moins, c'est quand
non,
même.
Mais c'est, non, mais c'est qu'elle tombe au bon moment, c'est-à-dire que c'est pas un truc grandiloquent qui m'a marqué complètement, mais je trouvais que c'était le bon point final au bon moment. C'est
la meilleure. Tombe à la fin de la série, quoi.
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis on idéalise tous la fin d'une série. Moi, je suis très spectateur. Et
ah
je...
oui, tu te projettes pas?
Non.
D'accord. Ouais, je suis assez d'accord.
Je prends mon plaisir comme ça, en fait.
Ouais, moi aussi, pareil.
À vivre
le truc.
Ouais.
Donc peut-être que justement. Ceux qui ont été moins déçus sont peut-être les gens qui l'ont vécu, comme vous le dites là, en spectateur, et que c'est ceux qui avaient un peu anticipé sur le coup.
Ça n'empêche pas d'être déçu, en fait, par la
oui,
fin
en même temps,
série,
peu, hein.
Mais j'idéalise pas une fin ou une suite ou un truc.
Donc, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment plu. Et la musique, on l'évoquait tout à l'heure, moi, je trouve qu'elle apporte vraiment un plus dans cette version-là.
Tu fais bien préciser, parce que quand c'est Ludo qui... c'est pas flagrant.
C'était la première...
Ouais, j'ai fait la musique de la première série de 78, ah ouais, pas celle de 2003.
Connu,
et on fait une distinction, c'est important.
Et donc, c'était la première production télévisuelle à succès de Beer McCreary, donc qui est le compositeur de séries à succès comme The Walking Dead, ou Black Sails, que j'avais évoqué au rêve de l'escalier dernièrement, ou au cinéma des films comme 10 Cloverfield Lane, que peut-être vous avez vu. Donc on sent ces influences assez multiculturelles, ethniques, assez exotiques en fait, qui remet dans cet univers-là. Je trouve que ça apporte beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, moi, la preuve de la qualité de la série, c'est qu'une fois que j'ai fini de visionner le dernier épisode, j'ai eu l'impression d'avoir perdu quelque chose, de plus retrouver cette ambiance. C'est un truc où tu te dis, bon voilà, c'est fini, maintenant je découvrirai plus rien. Si je le revois, ça sera qu'un revisionnage, mais il y aura plus cette découverte au fil des épisodes. Alors, si on veut continuer dans cet univers-là, il y a toujours Caprica, qui est une préquelle, donc qui se passe avant, puisque Caprica c'était la capitale, qui montre un peu comment les Cylons ont fini par prendre un peu le pouvoir. A priori, je l'ai pas regardé. Et aussi Blood and Chrome, qui relate la jeunesse du commandant Adama, mais qui a pas dépassé le stade du pilote. Donc il y a juste un pilote qu'on peut retrouver. Et puis sinon, il y a la série originale de 78.
Juste avant que tu attaques là-dessus, juste pour dire quand même pour ceux qui voudraient le découvrir, c'est que déjà le pilote de rien que regarder le pilote, et le pilote est, est d'excellente qualité
de la série de, des années 2000. Ouais.
Oui, il est il te prend,
c'est presque un petit
un film en fait. Ouais. Mmh. Très très bien réalisé, et surtout je trouve vraiment
il pose tout de suite les enjeux, quoi.
Voilà, avec des enjeux qui sont
des enjeux, des pions, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, on comprend pas tout,
des personnages très 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 forts en fait,
très charismatiques,
numéro 6 notamment.
On se demande ce qu'il y a, enfin voilà, un charisme la nana
qui est incroyable. Une scène de, enfin il y a quelques scènes comme ça qui sont la scène du Lando, la scène du la scène quand elle est avec Baltar.
Vous parlez du pilote du vaisseau, je comprends.
Non, vraiment, pour, en fait, pour avoir un bon aperçu, c'est-à-dire qu'en gros, si on croche au pilote, on peut y aller. Quoi,
la
en fait.
Scène où on vient les chercher.
Oui, tout à fait. Cette scène-là aussi, où
il faut une évacuation.
Oui, ça c'est le grappin dans Toy Story.
Le grappin
et notre maître. Non, ah non, le grappin nous a choisi, tu as choisi.
Bref. Donc, ouais, donc celle-ci, moi je vous conseillerais d'y aller les yeux fermés, que vous aimiez ou pas la science-fiction. Surtout si en plus vous avez du caviar dans les oreilles, alors là, ça sert à rien.
Jean-Michel, premier degré.
Par contre, là où peut-être Ludo et Didouille me contrediront, je m'étais offert ça, j'avais trouvé ça dans une braderie ou un truc à pas cher, là. Je trouve que ça valait le prix. Battlestar Galactica, la série originale de 1978, qui n'a rien à voir. Clairement, c'est du de temps en temps, ça ressemble presque à du Spaceball de Mel Brooks.
Ah, t'es dur là quand même.
Ah oui. C'est un côté, c'est du sous Star Wars.
Ah, bah, oui, mais alors c'est là qu'on voit qu'il y a peut-être aussi une différence de génération, parce que faut savoir que quand il est sorti celui-ci, donc 78, à l'époque on est dans les Star Wars. Là, on est dans des séries américaines. Moi, la première fois que j'ai vu ça. Bon, j'avoue que j'étais à fond dans tout ce qui était pilote et machin. Donc moi, Starbuck, gros piédestal.
Starbuck qui joue futé après dans l'agence Two Geeks.
Dirk Benedict.
L'agence Two Geeks, l'agence touristique.
Dirk Benedict.
Des formations.
Non, je trouvais que ça a changé, quoi. Ah, mais dans les années 78, pour moi, c'est un truc qui c'est énorme.
Le pseudo Starbuck dans le film Starbuck, c'est référence à ça.
Oui. En fait, juste une petite précision.
Plus qu'au café, peut-être.
Complètement. Une petite précision sur la série de 78. Elle a été faite, bâtie sur le succès de Star Wars. Oui. Et le spécialiste des effets spéciaux, qui est John Dykstra, je crois, est celui qui a fait les effets spéciaux de Battlestar Galactica.
Certaines choses sont pas honteuses, mais dans le scénario, c'est des fois d'une naïveté assez, assez déconcertante. Et après avoir vu celui des années 2000, il fait vraiment très très cheap et très daté, voilà. J'ai pas pu finir, hein. J'ai regardé deux saisons, je crois.
À contrario, nous, si on le regarde à nouveau, DVD. Tu vois, nous, ça va nous replonger sur une sorte de petite Madeleine de Prout. Mais par contre, le fait de voir après celui-ci, moi, j'ai trouvé. C'est vrai qu'il est graphiquement, tout ça, c'est très joli aussi. Mais j'ai quand même une petite tendresse. Je dis pas que je l'aime pas. J'aime beaucoup. Mais pour moi, c'est le départ. Il est
Si tu veux le regarder, je peux te le prêter parce qu'il est sur mon étagère et je le ressortirai pas. Juste pour vous revoir 30 ans plus tard, presque 40 ans.
Rien que de voir là, regarde, rien que de les voir tous les deux.
Mais pour répondre à la question de Fred tout à l'heure, il n'y a pas que Starbuck, t'as Apollo, Starbuck, oui, Adama, c'est tous les personnages qui sont repris, qui sont en fait tous les personnages de la nouvelle série.
Je connais pas du tout.
Voilà, en fait, reprennent, mais avec ça peut être un personnage de sexe différent, etc. Voilà.
C'est complètement une approche complètement différente.
Moi, je trouve que justement, l'approche de la série des années 2000 est vachement plus
ambitieuse.
Plus ambitieuse. Enfin,
Ronald Dimour qui avait repris ça.
Vraiment chouette. Enfin, là, il y a un vrai truc.
Mais c'est normal. En plus, il s'est passé combien d'années, là, entre les deux?
C'est ce que j'allais dire. On est dans la décennie.
Exactement.
Et plus dans l'esprit plus réaliste post 11 septembre et toutes ces choses-là qui a quand même été un basculement dans l'approche des séries. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que moi je l'ai terminé il y a 5 ans et que là j'avais envie de d'en reparler. Je pense que je vais m'y replonger aussi. Parce que ça me...
À l'occasion, ça me dirait bien
de passer 80 heures avec toi.
Ouais, de passer 80 heures avec toi.
Mais on verra si on partage la vie.
Donc pardonne-moi pour Bruce Boxleitner tout à l'heure, du coup je suis allé vérifier, c'est dans Babylon 5.
Ah, qui est autre chose.
Oui, mais du coup c'est deux séries que je n'ai pas vues.
Straczynski, que j'ai pas vu non plus, que j'ai envie de voir celle-là.
C'est vraiment une merde.
Fouette-moi, Freddy.
Et donc voilà, j'espère vous avoir donné envie, et puis si jamais vous avez vous aussi un avis ou bien équivalent ou complètement différent du mien, n'hésitez pas à échanger sur l'Entrepode. Je vais passer la parole, tiens, à Ludo.
À moi.
Ça te va, Ludo?
D'accord. Alright. Alright. J'ai pas de musique, rien du tout. Ah, bah si, j'ai mon jungle.
Tu as ton jungle.
Et maintenant, la Madeleine de Prout. Hello and welcome. Hit the record button.
T'as plu le film ?
Oui. Alors, ben oui, Madeleine de Prout, hein, ben, on prend les mêmes et puis ben, on recommence en fait. Hein.
C'est 8 pages aujourd'hui. Hein.
j'ai 8 pages. Non, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais vous présenter ?
Ça, je te le demande bien.
Qu'est-ce que je vais
on
vous présenter ? Alors, j'ai réfléchi.
Et je crois qu'il a retrouvé ton accent.
J'ai réfléchi. Et en fait, je me suis dit, c'est la rentrée d'Anthopod. C'est la rentrée scolaire tout court. Quoi de mieux qu'un bon teen movie pour, bah, pour se mettre un peu dedans, puis pour changer un petit peu de sujets très graves que j'ai pu aborder précédemment, n'est-ce pas ?
Ah, c'est lourd.
Donc, te connaissant, tu vas nous parler de l'élève du Cobu, c'est ça ?
Les vacances du petit Nicolas.
En fait, je vais vous causer le nom d'un film. Alors, c'est Madeleine de Prout, donc forcément, c'est pas forcément un film récent. Je sais pas si vous connaissez Better Off Dead. Parce que ça vous parle. Alors, ce film n'est pas sorti en France, en fait. Mais il est sorti en vidéo sous le titre Gagner ou mourir.
Film des années 80, ça.
Un bon film des années 80, voilà. Puisqu'il est sorti en 85. C'est un film de Savage Steve Holland. Un nom comme ça ne s'invente pas.
Ou ça s'invente.
Voilà. Ou ça s'invente, oui, en l'occurrence. Mais par contre, vous allez vite voir où je veux en venir, c'est que ce film a comme star John Cusack. En fait, alors qu'il avait seulement 19 ans, le brave garçon. Et alors, de quoi bon parle Better Off Dead ? Alors, pour les non-anglophones.
Demeure !
Eh ben, Better Off Dead, donc le titre du film veut dire, c'est mieux d'être mort, quoi. Better Off Dead, on serait mieux mort, quoi. Et pourquoi on serait mieux mort et pourquoi le héros du film serait mieux mort ? Je vous le demande dans
Mille zombies.
Il n'y a aucun zombie, ce n'est pas du tout un film fantastique, c'est un teen movie, je vous le rappelle.
Ah oui, mince.
Et donc l'histoire est la suivante. En fait, John Cusack joue le rôle de Lane et ce lycéen. Se fait plaquer par sa petite copine qui s'appelle Beth. Oui, et en plus, oui.
Toutes les mêmes.
Une blonde typique américaine qui le plaque d'ailleurs pour le capitaine de l'école de ski du lycée.
C'est non, pas le quarterback.
Non,
une fois. Originalité scénaristique.
Alors qu'est-ce qui va se passer ?
En même temps, ça se passe à Aspen.
Surtout, ça se passe à Miami, quoi.
Alors, c'est un peu bizarre, effectivement, parce que le film se passe un peu en Californie et en même temps sur les pentes de ski. C'est un peu spécial.
Est-ce que t'as situé dans quelle année tu as
le film est sorti en 85.
Non, mais ça se déroule, c'est contemporain du.
Oui, complètement. Je vais y venir après. C'est complètement, mais c'est 80s à blinde. Et on peut pas faire.
Il y a du fluo.
C'est génial. C'est vraiment, si vous voulez un film années 80, c'est sûr, mais je vais y venir après. Je vais juste raconter un petit peu le pitch et après je vous raconte la suite. Donc au niveau du pitch, donc le gars, donc évidemment, se fait plaquer comme une sous-merde, il n'y a pas d'autre mot. Et elle s'est plaquée pourquoi ? Parce que Beth, de toute façon, elle est fascinée parce que le gars en question, le Roy, là, le capitaine de l'équipe,
c'est il a des muscles.
Il est beaucoup plus populaire que comment on appelle ça, que Lane. Il a une plus belle bagnole. Enfin bref. Tous ces clichés habituels.
Il va faire un pacte avec
Alors,
la mort.
Que va faire Lane, à votre avis ?
Il va faire un pacte avec la mort.
Alors ici, j'ai le pacte avec la mort.
Et il va...
Ok, d'accord, super.
Laisse-nous réfléchir.
Non, mais non, même la deuxième fois, non.
Non. Bon, bah, je vois que le suspect.
Non, tricoter parce que Len.
fallait pas les laisser réfléchir.
Non, en fait, on va couper court tout de suite au suspect. En fait, il va tenter de se suicider.
Ah oui.
Et il va pas tenter de se suicider une fois, il va tenter de se suicider plusieurs fois.
La mort n'en veut pas.
Non, il y a vraiment pas de fantastique, hein, je le rappelle.
en fait, il fait exprès de se louper à chaque fois. Pour pouvoir recommencer.
En fait, non, il va essayer de se suicider. Simplement,
avec des
les circonstances font qu'en fait, il va jamais y arriver. Maintenant, le film, évidemment, parce qu'il serait bien mieux mort que vivant, vu la situation qu'il traverse. Et en fait, il va tenter de se suicider quelques fois, mais c'est pas forcément ça le cœur du film, puisqu'en fait, lui, ce qu'il veut, c'est récupérer Beth, en fait, Beth. Qui n'en veut vraiment plus. Hein. Et en fait, parallèlement, il va faire connaissance avec une étudiante d'échange française, en fait, parce que dans un programme d'échange, en fait, elle est française. Et il va donc découvrir cette fille-là. Et parallèlement, il va se lancer dans un championnat qui se passe sur une montagne, c'est le K12, la descente du K12. Et il va essayer de gagner cette course contre son rival, qui est donc le capitaine de l'équipe de ski.
Il va se surpasser.
Alors,
vous savez comment elle s'appelle, la française, dans le film ?
Oui, elle s'appelle Monique.
Monique.
Elle s'appelle Monique.
C'est, c'est une française. Quoi.
C'est pas un cliché. Elle s'appelle Monique. François. Et alors la française.
Bernadette.
Elle s'appelle Monique. Elle s'appelle Monique Pujol.
Si je c'est pas vrai. Je comme ça,
non, c'était pas Pujol. Je sais plus Monique en tout cas. Je sais qu'il l'appelle Monique. Et... alors, pourquoi alors vous pourriez vous dire, ouais, super, raconté mille fois, vu mille fois, etc.
Non. Mais ça en fait, a l'air original.
Oui, mais en fait. Le,
ça
le,
donne
le,
envie. Ben, hein.
En fait, oui, le traitement l'est carrément. Parce qu'en fait, le film, c'est vraiment un mélange d'humour noir. Et de alors un humour noir.
Je t'ai demandé si c'était humoristique parce que le côté
c'est en fait c'est une comédie super drôle.
Les suicides ratés à
non mais il y en a pas
à répétition.
Fait,
non même s'il en fait 3-4, est-ce qu'il y a un ressort
oui,
humoristique là-dessus?
Oui, ouais. Oui, il y a quelques, oui bien sûr. Ouais. Mais le film il vaut vraiment pour plusieurs choses. Franchement, moi c'est un film qui est très très drôle. D'une part dans la façon, alors d'abord sur le ton du film, le film de toute façon et donc ces suicides là sont toujours c'est pas toujours des trucs un peu la façon dont en fait il ne meurt pas est marrante, mais c'est pas forcément là où le gag là où il est, c'est surtout sur la galerie de personnages que tu as et les situations complètement surréalistes qu'il affronte. En fait, il est entouré d'une bande de tarés. Et ça fait très penser en fait à Malcolm, etc. Ce genre de choses-là. Alors que pourtant, il est bien antérieur à ça. Mais vraiment, quand on voit ce film-là, on comprend là aussi.
Il a peut-être eu une influence sur d'autres choses, peut-être.
Peut-être en fait. En tout cas, il est très inscrit dans la mouvance qui était la mouvance des années 80 de ces films de teenagers des années 80. Mais avec ce côté surréaliste en plus, c'est-à-dire que par exemple, il a une mère qui est complètement déjantée. Une mère qui par exemple fait à bouffer en fait, qui va toujours chercher les recettes de cuisine où elle peut dans les magazines. Le problème, c'est que sa mère, elle oublie toujours un ingrédient, et comme elle sait pas trop qu'elle a oublié l'ingrédient, qu'elle se souvient plus bien où les pages ont été collées parce que la flotte est tombée, bah elle improvise. Et donc elle fait des trucs qui sont carrément bizarres parce que là, des fois, il y a la bouffe qui se sauve de l'assiette, hein, ce genre de conneries là. Par elle, il est en bagnole, et à chaque fois, il y a deux japonais qui se mettent
à. Deux japonais.
et dont un japonais qui n'a appris parler anglais que grâce aux commentaires sportifs d'un mec. Donc du coup, il parle toujours en forme de commentaire sportif. Et ils sont toujours à essayer de vouloir le challenger en course de bagnole. Il a un petit frère qui est complètement muet, qui a 8 ans, qui est muet. Mais son petit frère, il est muet, mais en fait, il a une espèce de veste, toujours une espèce de peau de léopard. Il fabrique des pistolets laser et il arrive à séduire plein de femmes parce qu'en fait, il commande des magazines sur des magazines par correspondance.
Camoulox.
Ouais. Comment arriver à choper des femmes faciles. Et donc voilà. Et donc le gamin qui a 8 ans se retrouve avec plein de minettes comme ça. Et donc t'as toute une galerie de personnages, mais j'ai allumé, il y a que le père qui essaie de surnager là-dedans, mais il a énormément de mal parce qu'en fait, il voit quasiment cette espèce de vie de famille qui part complètement à volo et il essaie tant bien que mal de tirer son truc. Et bref, ce brave John Cusack.
C'est pourtant facile de tirer son truc.
Ok. Et donc John Cusack va donc essayer désespérément de reconquérir Bette. Et alors tout ça avec force, comment dirais-je, veste, avec, vous savez, les vestes des années 80 qu'on montait, qu'on retroussait, les manger vestes, saxophone, vous savez, saxophone, les musiques années 80 blindes. Vous êtes vraiment dans le film typique. Mais encore une fois, simplement, le film est vraiment, je le recommande vraiment parce que il est vraiment super drôle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce film-là a fait un peu un bide en sortant à l'époque aux États-Unis. Il a fait 10 millions de dollars, quoi, tout cassé. Par contre, il est sorti en vidéo ensuite. Et en fait, c'est là qu'il a, aux États-Unis, il a eu une très très forte réputation. Et aujourd'hui, ce film-là, aux États-Unis, enfin, aujourd'hui, même à l'époque, c'est devenu vraiment un film culte. Parce que il a cette
l'époque des vidéoclubs en fait qui a
carrément
marché,
il est symptomatique de cette époque des vidéoclubs où un film pouvait vraiment avoir plus qu'une seconde vie, pouvait vraiment avoir une carrière. Exactement.
Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec
t'as un micro Didouille
t'as un micro Didouille non mais attends tu rigoles ou quoi?
est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec La folle journée de Ferris Bueller?
Ouais, tu peux, voilà, typiquement ce genre de film.
Ils ont préparé le dialogue.
Oui, c'est écrit, regarde, c'est écrit. Voilà. Elle a une feuille devant elle où c'est écrit.
Après, t'es ce genre de truc, même si le discours.
Mais oui, m'a dit douille,
Par contre, tu peux faire.
On connaît, hein.
Mais c'est en tout cas, Risky Business, Ferris Bueller, enfin, La folle journée de Ferris Bueller, ce genre de film-là. Oui, pour le côté, j'irais student movie ou teen movie. Par contre, pour le côté un peu marié à tout prix pour certains aspects du film, d'accord. En fait. Là, pour le coup, voilà. Par contre, c'est un côté, il a un petit côté trash, mais gentiment trash. C'est pas, ça reste très soft, même si ça reste quand même, je vous dis encore une fois, l'humour noir est assez marrant. Mais c'est surtout les scènes complètement surréalistes. Il y a en fait, le film baigne dans un humour surréaliste en permanence. Il y a une espèce de par exemple, l'un des personnages du film est un livreur de journaux. Vous savez,
il veut pas qu'on le spoil.
Paperboy.
C'est ça.
Non, le Paperboy en vélo qui.
Le Paperboy. Et en fait, le Paperboy va harceler littéralement. Il est poursuivi par le Paperboy en permanence qui veut toujours récupérer ses $2. Et donc, il y a cette phrase qui est une espèce de gag de répétition en permanence dans le film où le gamin revient par tous les moyens pour I want my $2. Et donc, il est là, je mets $2. Quoi. Bref, voilà. Bref, je vais pas vous raconter tous les gags du film, ce serait un peu dommage.
Parce que là, t'es vachement bien en plus.
C'est vrai que là, quand tu l'as dit, j'ai beaucoup
ri. Tu vas avoir du mal à en trouver un meilleur, je pense.
Ah, il m'a mis $2.
Non, mais par contre, oui, non, mais je peux pas. Il y a plein de scènes de films que je peux pas raconter, mais il faut vraiment voir le personnage. Il faut vraiment voir le personnage de la mère qui est fantastique, ou l'étudiante d'échange française qui est littéralement séquestrée par sa famille d'accueil, puisqu'en fait, là, on le voit tout de suite, la mère la mère en question, elle a un fils obèse et complètement asociale, et en gros elle a trouvé une proie pour son fils. Ah ouais. c'est que ce genre de scène là c'est franchement très très drôle. Alors
c'est un film que t'avais vu à sa sortie au cinéma ou tu l'as vu récemment?
Non, c'est un film que j'ai
c'est
vu
un film que t'as vu dans les années 80.
C'est un film que j'ai vu aux États-Unis, enfin à l'époque où il était aux États-Unis, mais je l'ai vu en vidéo. En 88 quand j'y étais, et ce film là m'avait vraiment marqué à l'époque parce que j'avais trouvé ça super drôle, et je me dis, c'est bizarre, ce film là je l'ai plus revu, mais le film est toujours resté, et je me dis, mais ce serait vraiment l'occasion, pour le coup, c'est une vraie bonne mallette de Prout. Par contre, je l'ai revu pas plus tard que cet après-midi pour pouvoir me le mettre en tête, mais ça revient vite, en fait. Hein, donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, en même temps, c'est une comédie très romantique, puisqu'il y a une vraie évolution du personnage, et puis bon, je veux pas trop en dire, mais c'est
arrête de taper sur la table.
Ah, mais ça me donne du rythme, c'est bon, ça, c'est bien.
Tu peux en dire plus, on va peut-être pas se jeter dessus.
Si, jetez-vous dessus. Donc, comment dire romantique, comme je. C'est très beau, là, sur les affres de l'adolescence, n'est-ce pas?
Pourquoi tu regardes Ludo? Arnaud, dis donc, Arnaud, t'as un succès fou, toi, ce soir, avec Laurent.
Pas avec les filles, quoi. Non,
parce qu'en même temps, il faut un petit peu de fond à ce genre de film-là, et donc c'est tout sur la nécessité de se conformer à des stéréotypes, etc. Vous savez, être populaire, avoir la belle bagnole, etc. Donc, il y a
de la vie de plusieurs personnes.
C'est la vie de plusieurs personnes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui est vachement intéressant?
T'es intéressé, Freddy
César? Si, voilà. Parmi les anecdotes, etc., John Cusack déteste le film, enfin en tout cas à l'époque, d'après le réalisateur, avait déclaré que John Cusack l'avait vu à l'occasion de la sortie de son deuxième film, pour lui dire tout le mal qu'il pensait du film, à quel point il considérait que le réalisateur avait trahi sa confiance et qu'il ne voudrait plus jamais lui parler ni même travailler avec lui plus jamais.
Il aurait 19 ans.
Il avait à l'époque 19 ans. Et John Cusack, en 2003, lors d'une interview à Reddit, a dit que non, pas vraiment, en fait, qu'il trouve qu'il aurait pu être meilleur dans ce film-là, mais que voilà, il pense toujours ça de lui en général. Bon, je pense que la réalité, elle était quelque part entre les deux, parce qu'ils ont gardé une certaine, on va dire, pas animosité, mais bon, voilà.
Il a fait autre chose, ce réalisateur ou...
Alors, il a fait deux autres films. Je vais vous dire tout de suite One Crazy Summer et How I Got Into College, mais ces deux films-là ne sont jamais sortis en France, et surtout ces deux films ont été des flops absolus, et du coup derrière il a surtout travaillé pour la télé, en fait. D'accord. Il a fait beaucoup de choses pour la télé, donc voilà, qu'est-ce que je... ben voilà, et pour finir, attendez, oui, comme petit dingue, c'est qu'en fait ce film-là est un film autobiographique pour le réalisateur, puisqu'en fait il était vraiment suicidaire à l'époque. Et sa copine l'avait largué, il était vraiment suicidaire, et en fait il s'est fait vraiment larguer pour un capitaine d'équipe de ski, ce qui est un peu con. Et il avait vraiment un distributeur de journaux.
Capitaine d'équipe de ski, vous savez ce qu'on pense de vous?
Qui le harcelait. Voilà, donc il y a plusieurs petites références rigolotes à Frankenstein, au lauréat, et puis aux griffes de la nuit également. Donc voilà, voilà, je vous le recommande vraiment. Voilà. Vraiment. Alors dit comme ça, ça vous donne pas envie. Je vois bien que vous avez des têtes.
On le trouve
un peu
facilement.
Mais non, en fait, je crois pas.
Ah bah non,
pas sûr.
C'est distribué qu'aux États-Unis.
Pourquoi tu l'as regardé cet après-midi? Tu l'as
sur YouTube. En fait, j'ai réussi à retrouver ça sur YouTube.
Bah donc on peut le trouver sur YouTube.
Voilà. Oui, mais en fait pas dans
VO non sous-titré.
En VO non sous-titré, quoi.
Ah ouais.
VO non sous-titré, et la
dans une qualité, c'est du rip de VHS, non, c'est ça?
Bah la qualité, elle est voilà, tu peux regarder, mais c'est pas de la qualité, c'est pas de de la HD 4K, quoi. Hein. Okay. Soyons tout de suite d'accord. Okay. Donc voilà, voilà, voilà.
D'accord.
Donc je vous invite vivement, je répète donc ce film Better of Dead. Vraiment, vraiment, regardez-le parce que c'est vraiment
Better
un.
Of
Better of Dead. C'est une vraie. Comment on appelle ça?
Ah ouais, je comprends mieux.
C'est un film qui est pas connu ici, mais
non,
qui,
je te confirme.
Qui est vraiment. Qui, ouais, est vraiment, qui moi, mérite vraiment, cas, vraiment le détour. Voilà.
Très bien.
Voilà.
Merci.
Et on doit pouvoir le trouver en français puisqu'il a un titre français.
Gagner ou mourir, ouais, tout à fait. Par contre,
peut-être en québécois alors.
Il faudrait essayer de le trouver, c'est mais faut ça. Le voir. Par contre, il faut le voir absolument VO, hein, enfin sous-titré, mais parce que.
Ah oui, c'était quoi le
film? Ben non,
c'est...
j'ai envie de mourir.
Spinal Tap. Non, parce que je suis je l'ai pas vu, mais je veux pas. Mais j'imagine que la VF sur un film,
sur un film
ça,
de l'époque, ouais. Vous avez pas dû mettre beaucoup de budget et d'implication.
Blonde m'a braqué.
Mais notamment, il y a une, c'est comment?
T'as qu'à les parties de blonde.
Ah, je pas m'en souvenir.
Blonde.
Ah oui, il y a une scène de dialogue très drôle.
Il y a Joan le Seigneur là-haut.
On n'entend plus rien, là, on vous dérange pas.
Il y a une scène de dialogue très drôle, mais qui va pas absolument pas vous faire rire, mais c'est pas grave, je le dis comme ça.
C'est un distributeur de journaux.
Non, c'est la française.
C'est un chinois qui a un chien.
Qui se plaint au héros que le. Qui se plaint au héros que le. Son, on va dire son frère d'accueil, entre guillemets. Enfin, en tout cas, le gars à qui elle est finalement promise par sa mère quasiment, n'arrête pas de lui mettre ses testicules all over her. Et en fait, voilà. John Cusack lui fait.
Quoi?
Et c'est drôle, hein, David. Et en fait, John Cusack leur prend, lui dit: ah non, tu veux dire certainement tentacles? Les tentacules, voilà, c'est pour vous dire, c'est drôle, hein.
Ouais. Tu vois, c'était bien, c'est,
voilà.
C'est bien.
J'espère vous avoir donné envie.
Ah, tu racontes bien.
Je crois que c'était les 6 dernières pages, là, toi.
Non, regardez-le, c'est vachement bien,
ça
vraiment.
Va
vraiment
rester, ça,
s'il vous
pense,
plaît,
en fait, c'est bien.
S'il vous plaît, j'aimerais bien qu'on fasse une séance, okay. Un jour le soir, un soir là-dessus. Je vous assure, ça vaut le coup, et ça changerait de film.
Bah, pour les auditeurs, ils vont pas le voir, donc, mais entre nous, on peut se le mettre.
Si tu fais la traduction simultanée, moi, je veux bien le voir.
Oui, il faut le trouver, en fait. Par contre, il faut le trouver en VO sous-titré. Non, il y a aussi son meilleur copain. C'est génial.
Ah merde, on l'a relancé.
Ouais, c'est génial.
Il sniffe tout, il sniffe tout.
Il a mis tout d'alerte dans le furon là.
Il sniffe tout.
Mais il a l'air de pas perdre.
Tu crois qu'il sniffe? Non. En fait, il sniffe la neige, il sniffe le jello. Là. Vous savez, il sniffe tout. C'est drôle, c'est rigolo. Il y a des petites séquences d'animation aussi. C'est drôle, ça aussi c'est drôle. Là. Tu t'es fait mal. Hein. Ces petites séquences d'animation. Avec des hamburgers qui dansent en animation.
Oh là.
C'est génial, c'est les effets.
Ouais.
Vous savez quoi? Je crois qu'on
allez,
va faire une pause
disco.
Avant de lancer Marius et je vais sauvegarder.
C'est pas soirée disco?
Comment ça va ce soir?
Allez, le new pimps, on monte sur la table, on sort les discothèques.
Marius, c'est à toi maintenant.
As-tu vu les belles canouilles? As-tu vu les belles canouilles? Les belles canouilles dans le marécage? As-tu vu? As-tu vu? As-tu vu? As-tu vu?
Bordel de merde.
Alors là, je vais faire un mélange, moi, entre un livre que j'ai pu lire, et c'est assez rare quand même, et un film que j'ai pu voir. Ça, c'est moins rare, mais ça, quand même, faut le souligner. Donc, en 2014, j'ai pu avoir le grand plaisir de lire un livre de Pierre Lemaître qui s'appelle Au revoir là-haut, que j'ai littéralement dévoré à l'époque, et dont je me rappelle encore des passages, donc c'est ça qui est formidable. D'habitude, je lis des choses, et en fait, après, ça s'en va. Ça rentre là, et ça
revient.
Et ça repart, donc là, je me souvenais de tout. Et lundi dernier, du coup, j'ai eu la chance d'aller au cinéma, donc à Elbeuf. C'est quoi? C'est pas un forum?
Ouais, je sais pas.
Le enfin, Mercure. Cinéma, le Mercure d'Elbeuf. Forum, il va être content, le
cousin.
Donc j'ai eu la chance d'aller au cinéma donc d'Elbeuf, où il y avait en fait une adaptation de ce roman que j'ai pu voir, donc faite par Albert Dupontel, et qui passait en avant-première, parce que ce film sort dans Nico
mi-octobre,
et moi,
je crois.
Mi-octobre.
Dans octobre, quelque chose comme ça.
Donc on a eu la chance de le voir, parce que sans le savoir, Nico avait vu la première...
En fait, oui, ce qui s'est passé, c'est que lundi soir, Dupontel voilà. Était en Normandie, chez les Roigniers,
chez
et allait voir les Elbovins.
Et les Elbovins.
Comme il nous a si sympathiquement qualifiés. Mais c'est vrai qu'il y avait donc cette avant-première qui avait lieu à Rouen, puis à Elbeuf, avec...
En même temps,
ouais. Enfin, pas en même temps. Parce que c'est quand même 20 ans d'écart. Et qu'à la fin de chaque projection, Dupontel intervenait pour répondre aux questions du public par rapport à son film. Tu as dit le nom?
Au revoir là-haut.
Au revoir là-haut.
Au revoir là-haut.
Donc, je te laisse continuer, Marius.
Non, c'était bien. Et donc, c'est moi qui ai lu le livre. C'est une superbe, c'est vraiment une très très belle adaptation. C'est bien fait. Il y a eu un gros, c'est un gros budget. Hein. Il l'a dit qu'il avait fait des films avant qui étaient à petit budget. Et là, on dépasse les 15 millions d'euros, je crois.
Ouais, j'avais quelque chose comme ça. Ouais.
Enfin, il n'a pas trop dépensé sur son loyer.
Avec, on retrouve à l'affiche donc Albert Dupontel, Laurent Lafitte, Nils Arestrup qui joue.
Nils Arestrup, ouais.
Quel acteur.
Père de, ouais. Ouais, il est terrible, hein.
Dans tous ses films.
Mélanie Thierry, Émilie Duquesne, et puis un acteur qui joue, donc, qui joue, comment il s'appelle
Le mec du gouvernement, là.
Non,
pas lui. L'acteur principal.
Pas le Duquesne, c'est quoi. Enfin, je vois là, tu vois.
L'acteur principal, celui
ouais,
qui
l'acteur
est.
Principal, c'est un, qui, est des
qui est un. Ouais. Qu'un Argentin.
Un Argentin qui s'appelle.
Nahuel quelque chose.
Nahuel Pérez Biscayar. Et ouais. Donc, c'est ses premiers. C'est son premier rôle et qui joue magnifiquement.
Bah, tous les
bien.
Acteurs sont.
Un qui a un rôle où il ne parle pas, mais qui est.
Il est très expressif.
Ouais, très, très expressif.
Juste avec les yeux.
Donc, quelle est l'histoire?
Alors, attendez, n'en dis pas trop.
Ça va
picher. En fait, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale et. C'est le dernier assaut.
Non mais tu peux écouter. Non mais il n'y a rien. C'est l'histoire, c'est la thématique,
c'est le pitch.
Ah pardon.
Ah bon, c'est quand du t'en fous quand je parle.
En fait, ça s'inscrit dans le contexte historique.
En fait, voilà, contexte historique, Première Guerre mondiale et c'est l'histoire de deux poilus qui vont
des gueules cassées aussi.
Qui vont avoir, qui va leur arriver tout un tas de choses quoi.
Voilà.
Donc,
dit comme
faut...
ça, mais on peut pas trop en raconter parce qu'effectivement,
tu
spoil rapidement l'histoire si tu donnes un peu la. Enfin, j'ai l'impression que on peut vite donner un peu de trame. Par contre, effectivement, ce qu'on peut dire sans trop en dévoiler, par contre, parce que là, ça parle pas de l'histoire, c'est la réalisation visuelle qui est assez incroyable, ouais. Quoi. Quand à la fin, je sais pas si avec vous, il a fait la même chose, mais quand Dupontel explique un peu le travail, mm-hmm. quand il t'explique ouais. que certaines scènes. Que tu vois,
montées,
c'est enregistré, c'est tourné sur le parking d'un supermarché, et puis qu'en fait, ce que tu vois à l'écran, tu dis ah ouais, non, d'accord, ok.
Ouais.
Il te dit c'est des choses que lui n'avait pas l'habitude d'avoir habituellement.
D'où le budget en fait du film à 15 millions d'euros.
Qui a mis un an finalement de post-production, de réalisation, etc. Donc vraiment un très 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 beau film qui, à la fois sur la thématique, parce qu'il y a des sujets de filiation qui interviennent, il y a des sujets historiques. Des problématiques. Il y a de l'humour aussi, elle a du Pontel de
oui,
temps en temps,
ça,
un peu,
ouais.
un peu grinçant quand même, il a dû s'approprier certains trucs. Et lui ne devait pas jouer en fait dans ce film.
Il y avait un acteur qui l'a laissé au dernier moment.
Il l'a plombé. Et donc
d'où la difficulté où il expliquait de réaliser et de jouer en même temps, où c'était pas du tout. Mais un très très beau, d'une, un très très bon roman qui m'a vraiment passionné et que j'ai dévoré de cru.
Alors, pour si vous avez lu le
ouais. Excuse-moi, et puis le film qui vraiment, qui pour le coup est très très pour très par rapport au roman, sauf la fin. Où
voilà, c'est parce qu'il dit quand même qu'il a fait une adaptation en accord avec c'est Pierre Lemaitre, c'est ça.
Ouais, Pierre Lemaitre, ouais.
Qui a supervisé un peu quand même l'enregistrement.
Prix Goncourt en 2013.
Et alors, Marius, tu lis pas beaucoup.
Du tout.
Pourquoi t'avais lu ce livre-là?
Parce que j'avais vu dessus Prix Goncourt. c'est réel.
Okay.
J'ai vu Prix Goncourt et j'ai pas été déçu. Donc j'achète rarement un livre par rapport à. Enfin, je sais pas, c'est un peu con ce que je veux dire, hein, par rapport à la jaquette ou à machin, ou ce qu'il y a derrière. Je lis très très peu, mais là j'avais vraiment pris ça pour ça et j'ai pas été déçu. Et j'ai essayé un autre Pierre Lemaitre, je sais plus, un autre, que j'ai pas du tout accroché.
D'accord.
En fait.
Et vous qui l'avez vu tous les deux, Albert ouais. Dupontel, il était comment? Est-ce qu'il était décontracté? Parce que moi, j'ai eu la chance de l'interviewer à la sortie de Enfermé dehors.
Mmh.
Et j'avais rencontré quelqu'un de très stressé, oui. de très...
On sent que c'est quelqu'un de tendu, en fait.
Ah ouais, complètement.
Dans sa façon de se tenir, déjà, c'est vrai
ça
qu'il est
très, bien passé,
très, très raide.
Le patron du cinéma, à l'époque, nous avait dit... Attention, on marche sur des œufs, ça se passe pas bien dans d'autres villes... Et du coup, là, je suis curieux de voir s'il a évolué, s'il était...
Non, ça allait, parce qu'il a commencé, voilà, en envoyant quelques vannes sur les Rouennais, sur les Normands, etc., en disant qu'il sortait un peu voir les ploucs. Enfin, tu vois, déjà, c'est vrai que ça...
Oui,
tu sens que
il
ça...
Il met à l'aise.
Il met à l'aise, du coup, et tu sens qu'il n'est pas complètement dans le stress. Mais... il a quand même une attitude qui fait un peu stresser quand même comme garçon. Mais par contre, c'est passionnant l'échange avec quelqu'un comme ça qui t'explique. Là, on va pas tout vous refaire, mais toutes les ficelles, les choses qui ont marché, qui n'ont pas marché, quelles sont les problématiques rencontrées, etc. Les techniques mises en œuvre sur certains trucs pour certaines. Certains plans séquences, ça c'est rien à spoiler, mais il y a quelques plans séquences, etc. Comment ils ont mis en place ces trucs-là. Et c'est vrai que visuellement, franchement, c'est du très très beau cinéma. Moi j'ai vraiment, vraiment aimé. Et ouais, j'ai été pris par l'histoire. Je suis sorti, je me suis dit, ouais. Ce truc-là, j'y retourne quand il sort, à la rigueur, je m'achèterai forcément le DVD, enfin le Blu-ray, voilà. Parce que j'ai vraiment trouvé ça très beau.
L'échange a duré longtemps avec Dupontel ?
L'échange a duré, oui. On a eu quasiment une bonne dizaine de personnes qui ont interagi avec lui. Et c'est vrai qu'il se place devant les personnes et il communique avec la personne. Il était très. Enfin, moi, je l'ai trouvé très ouvert.
C'était un peu plus impersonnel quand même, parce que la salle était très grande. C'était la salle 2 des pâtés d'oc, là.
Moi aussi, elle était grande.
Donc, c'était prétentieux.
mais il y a eu vraiment un échange.
Mais c'est une trentaine de minutes, quoi. Donc, déjà, t'as de quoi avoir des échanges assez, assez constructifs, quoi. Mais vraiment, ça m'a donné envie de lire le livre, puisque il dit que c'est à la fois très fidèle, mais en même temps, avec des adaptations. Qu'il a assumé et voilà.
On peut inviter les auditeurs à regarder la bande-annonce qui est très bien faite. Enfin, moi j'ai vu deux trois fois.
C'est vrai comme.
Alors par contre,
avant d'attaquer ma chronique, on m'a dit ne fais pas ne spoilie rien. Et c'est vrai qu'en regardant le c'est ça non, j'ai une connerie non.
En français on dit ça.
Et oui, on découvre un univers quoi, déjà.
Voilà, mais il y a rien du tout qui donne une image.
On voit l'univers
film.
Visuel que peut avoir le film. Ouais, par contre, ça ne dit rien du tout du film. Hein. Enfin, ou si peu quoi. Ouais. Donc voilà, si vous avez aimé la bande-annonce, vous risquez d'aimer, mais vous pouvez être aussi surpris.
Faut pas non plus laisser arrêter par la bande-annonce, parce qu'elle dit tout et pas grand-chose, en fait, la bande-annonce. Donc il y a vraiment quelque chose d'autre derrière.
C'est ça. Allez, très bien.
Voilà,
c'est le principe. Hein.
Moi, autant emballé, vraiment, je suis ressorti avec un smile, et puis en disant à mon épouse que j'avais passé une superbe soirée par rapport à avoir vu avoir vu le film comme j'ai dévoré le film, comme j'ai dévoré le film. Ouais.
Et il y a une BD aussi qui existe.
Ouais, et il faut dire également qu'il y a 2h, quasiment 1h53 de film qui passe à
j'ai pas vu passer le film, ouais.
Voilà, qui passe à la vitesse de l'éclair.
Donc voilà.
Voilà ce que je voulais dire. Je n'ai pas été spécialement cassé ce soir.
Non, c'est intéressant.
C'est tellement rare.
Il y a un très grand respect autour de la table.
Oui, je trouve. Est-ce
qu'on vous a donné envie de le voir ? Est-ce que vous aviez déjà envie de le voir ?
Moi, j'ai pas envie de le lire.
Mais
plusieurs personnes qui nous conseillent ce livre.
Voilà.
Ouais. Et donc, moi, déjà, parce que j'adore cette période de. les périodes historiques sur les guerres mondiales, déjà.
Tu sais que.
En plus, Albert Dupontel, pour moi, c'est quand même. Déjà, avant d'être un très bon acteur, non, mais...
C'est Bébert, quoi.
Non, mais moi, j'avais déjà adoré ses one-man shows. Ses films, j'ai adoré aussi.
Il y a un peu moins de... C'est ce qu'il expliquait, il y a peut-être un petit peu moins de misère sociale qu'on peut voir habituellement, de désœuvrement, même enfermé dehors, neuf mois ferme, ou des choses comme ça, aussi. Où il a une tendance vraiment à... Mais il disait qu'il avait beaucoup aimé ce film-là, parce que justement... Il pouvait le faire d'une façon un petit peu plus nuancée, mais tout en le laissant poindre un petit peu quand même.
C'est pas la première fois qu'il fait une adaptation et pas un scénario original d'ailleurs.
C'est possible. Alors ça, je saurais pas te dire.
Parce que même, enfin, le créateur, je crois qu'il a travaillé avec Gilliam, mais pour moi, c'est, enfin,
je pense aussi,
comme ça, je dirais que c'est la première fois. Qu'il...
Ouais. Moi, j'avais adoré le film dans lequel il jouait.
Bernie Willis.
Non, justement, il. Il était atteint d'une...
Deux jours à tuer.
Deux jours à tuer, pour moi, ça a été...
C'est également une adaptation d'un roman.
Et ce film...
Avec également une fin différente.
Mais c'est pas lui qui l'a réalisé.
Je crois que c'est Jean Becker.
Dans ce film, il est juste exceptionnel.
De toute façon, il est toujours exceptionnel. J'ai absolument pas aimé ce film du tout.
C'est vrai il est un peu anxiogène.
Le livre est exceptionnel, vraiment. C'est possible, mais j'ai pas du tout aimé le personnage, en fait.
Ah ouais.
À cause de ça. Le rejet... J'ai trouvé que le film, en fait, le rejet total de tout... C'est à la fois de sa famille, de ses enfants, enfin voilà. Je suis absolument pas arrivé à m'identifier au personnage, ce qui fait que du coup, je suis pas rentré à aucun moment dans le film. Et pourtant, voilà, juste ça, ça m'a. Je comprenais pas son comportement.
D'accord. Bon.
Mais voilà, enfin, pour expliquer pourquoi
peut-être qu'en lisant le livre.
Mais si le film est adapté du livre et que le livre est bâti là-dessus, ça va être difficile parce que du coup,
le personnage est quand même caractérisé. Ouais, du coup.
Voilà, tu vois. Alors que Dupontel, je suis d'accord, fait une prestation fantastique dans ce film-là. C'est pas.
Voilà. Et t'as bien pété l'ambiance, mon
voilà.
Con.
Voilà, je crois que j'ai bien. Non,
ça va, ça te va de prendre le prendre la casquette de Christophe là.
Voilà.
T'es
voilà,
content.
Et bah, pris sa casquette, bah maintenant il a froid à la tête.
Sympa, et bah justement, puisqu'on est dans le cassage d'ambiance et le cassage tout court, on va laisser la parole à Jean-Robert.
Ouais, puis j'ai cru comprendre qu'il
il était prêt, il était chaud, il avait profité de ses vacances.
Il est arrivé.
Il est arrivé.
Il arrive.
T'as pas entendu la porte s'ouvrir tout à l'heure? Il y a des grands moyens ici. Hein.
Oh, je le voyais pas comme ça, Jean-Robert. Ouais.
Il se tape Marius. Hein,
Jean-Robert Arnaud, en ce moment, il est un peu chaud. Hein, donc...
Mais pourquoi est-il si méchant?
Ma plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Hein. Bonjour aux quelques nouveaux auditeurs qui nous rejoignent. Hein. Au revoir à ceux plus nombreux qui ont renoncé à nous écouter. Je me présente, hein, Jean-Robert Frégin. Mais tous mes amis m'appellent JR. Hein. Enfin, allez savoir pourquoi, des amis, j'en ai très peu. Hein. D'ailleurs, en fait, tout mon ami m'appelle JR. Ouais. Monsieur Freddy, permettez-moi de vous adresser un bonjour particulier. Sachez que j'ai une amicale pensée pour vous qui venait de subir deux annulations consécutives de concerts d'Europe & Co. Je sais combien ces concerts vous tenaient à cœur et n'aurez pas l'indélicatesse d'en plaisanter ici. Pour bien commencer la nouvelle saison, la cinquième de l'Anthropode, rien de mieux qu'une petite remise à plat. On remet les pendules à l'heure, on crève les abcès et ainsi on démarre sur de nouvelles bases. Retour donc sur la saison 4, hein, souvent une saison particulière en termes de séries télévisées, hein, une saison charnière, un cap plein d'écueils, hein, la saison où traditionnellement le scénario commence à faiblir. C'est souvent là que tout part en quenouille. Au fait, Marius, vous les avez vus ? Ce fut malheureusement aussi le cas pour l'émission. Saison en 10 épisodes, avec moins d'effets spéciaux et de sexe que dans Game of Thrones. Hein. Heureusement pour le sexe d'ailleurs, compte tenu du physique ingrat de la plupart des chroniqueurs ici présents. Tout avait mal commencé avec l'épisode 27. Hein, avec un épisode numéroté comme le département de décérébrés dont provient presque la moitié des chroniqueurs de l'Anthropode, il était clair que la saison s'annonçait sous les plus mauvais auspices. Hein. Pas de bonne, Marius, pas de bonne, hein, les auspices. Non, épisode foutraque, hein, une sorte de partout sonore en fait, où les uns parlaient par-dessus les autres, où les sons s'entremêlaient en un écœurant salmigondi. Épisode qui mena les auditeurs vers de palpitants sommets de réflexion, avec des débats passionnants et passionnés autour du pop-corn au cinéma.
C'est vrai, c'est
génial, même Monsieur Rêve, présent parmi le public, en perdit sa dignité en se collant des cellucups sur le front et à des endroits que ma morale chrétienne réprouve. Et pendant ce temps-là, Christophe nous présentait pour la 7e fois un livre de Donatarte qui, à ma connaissance, n'en a pourtant commis que 3. On va croire qu'il regrettait de ne pas avoir préempté le titre de la chronique de Madame Didouille, Tarte au poil, qui ne servit pourtant guère durant cette saison. Hein. Oh. Ouais, elle était censée parler sexualité et gourmandise. Hein. Et hormis un brainscape hors sujet, elle nous a parlé du space poop, hein, littéralement le caca de l'espace. Hein, sexualité et gourmandise. Ça en dit long sur vos plaisirs scatologiques inavouables. Hein.
Il l'a avoué tout à l'heure, Léon. En fait.
Vous êtes visiblement adepte du Marquis de Sade, Madame Didouille. Épisode 28. Un épisode désormais culte suite à la vidéo d'une starlette projetée tel le héros du film Avatar de Cameron dans un monde inconnu grâce au casque de réalité virtuelle de Pixel. Bon, à mon avis, vu l'état d'ébriété dans lequel elle était, elle aurait vu les mêmes choses sans le casque. Hein. Oui, et il paraît qu'on a les invités qu'on mérite. Hein. En l'occurrence, un collectif de geeks hippies, hein. Pas pour rien qu'ils sont potes de Monsieur Nico, qui se paye des soirées vidéo et réalité virtuelle à coup de subventions publiques et d'emplois aidés. Ouais, je parlerai pas ici de leur raquette institutionnalisée auprès de pauvres maires de petites communes de campagne qu'ils parviennent à culpabiliser et à faire raquer en leur faisant croire que l'illustrateur vidéaste Nico Dio ou le médiocre hautain et prétentieux chanteur Nord sont des artistes à même d'éveiller la curiosité culturelle de leurs enfants, moyennant 4 années de budget culture de modestes collectivités locales. Épisode 29, Gaïdic Chambrier, le retour. Le rappel de trop.
Les 6 pages de...
Mauvaise idée. Faire revenir un guest qui a cartonné la fois d'avant, ça sent le réchauffer. En prime, Monsieur Chambrier fait le beau en t-shirt blanc, histoire d'humilier encore un peu plus ostensiblement le replay et rondouillard Monsieur Arnaud. Hein. Avec la morgue qui le caractérise, le garçon est venu nous présenter son album Vortex en avant-première. En avant-première, faut le dire vite, hein. En avant-dernière, oui, l'album, certainement du fait de sa piètre qualité, n'est jamais sorti. Et aux dernières nouvelles, le sieur Chambrier ne se porte pas au mieux. Hein, plusieurs indices de sa décrépitude. Et... Il aurait lancé un nouveau spectacle pour succéder à son pénible Histoire de guitare, Histoire de triangle. Il en serait réduit à poser nu, faisant l'amour à un nickel arpin pour le site de photos Marius Fucking. Et last but not least, signe d'une sérieuse décadence, il ferait des pieds et des mains pour intégrer le groupe Kenkyu. Émission où Starlet se livrera pour sa part avec impudeur sur son expérience de massage érotique à base de bol tibétain dans une backroom rouennaise, le murmure des arbres. Ouais. Massage qui visiblement ne provoquait pas du vent que dans les branches. Hein. Bon, épisode 30, hein, épisode de Noël dont le passage de loin le plus intéressant fut celui où Madame Didouille nous narra ses émois de Noël devant le téléfilm Sauvez mon noix sur M6. C'est vous dire le niveau de l'émission. À Monsieur Nico, le Hanouna du pauvre, voulant détourner l'attention des auditeurs, avait obligé ses chroniqueurs à s'humilier en se déguisant. Chers clients, les concerts d'Emma Ross Rundle et Flotation Toy Warning en provenance d'Europe & Co, initialement prévus le 23 mai 2017 à 21h et le 22 octobre à 19h, sont annulés. Veuillez nous excuser pour le désagrément ainsi occasionné. Bah, monsieur Nico, c'est bientôt fini vos bidouillages. Bon, excusez-nous pour ce souci technique. Hein. Bon, je reprends le cours de mon papier. À début 2017, l'équipe attaquait l'année, bien décidée à ne tirer aucune conséquence des retours désastreux d'un sondage réalisé par l'Institut Nikos auprès d'un échantillon représentatif d'auditeurs. Hein, et continuait donc sur sa lancée sous la houlette de son leader Maximo, alors pas encore chômeur, abusant d'avantages sociaux bien trop généreux. Non, Marius, le chef s'appelle bien Nico, pas Maxime. Hein. Non, laissez tomber. Épisode 31, Rebecca Armstrong. Le CSA nous avait imposé la présence de cette jeune femme d'origine, comment dirais-je, exotique, pour de sombres raisons de bien-pensance raciale et féministe. Ouais, elle venait pour 2050 le podcast. Bon, pour l'instant, je me contente de les télécharger, mais je me suis juré de les écouter d'ici 35 ans. Il était initialement prévu que M. Nico soit interviewé par Rebecca pour délivrer sa vision de ce qu'il adviendrait de l'entrepôt en 2050. Après son passage chez nous, Rebecca a annulé, persuadée que l'émission n'en avait plus pour longtemps et qu'elle ne serait plus dès 2019 qu'un mauvais souvenir. C'est également l'émission à partir de laquelle Freddy, dont les choix musicaux casse-bonbons finissent par user les autres membres de l'équipe, se verra affublé par ses collègues chroniqueurs du surnom de Ashburn. Événement en février. Hein. Vous pouvez désormais, chers non-auditeurs, faire le choix de ne pas nous écouter sur Deezer plutôt que de ne pas nous écouter sur iTunes ou de ne pas nous regarder sur YouTube. À épisode 32, le couple de tenanciers de l'entrepode se paye un matelas et des fruits et légumes aux frais de l'émission. Alors qu'il est Geoffrey Altermat, hein, l'invité venu nous présenter son circuit court réseau, a changé son fusil d'épaule et monté zéro. Il milite désormais pour une agriculture déraisonnable, certifiée sans qualité gustative et avec 0% d'apport nutritif. Aux dernières nouvelles, Geoffrey fait ainsi pousser hors sol des sachets de pommes minute Lunor. Épisode 33, cet épisode nous vaudra avant tout les foudres du CSA, après une introduction à une chronique de Monsieur Marius, exclusivement dédiée à la dive bouteille. Après enquête, il s'avère que Monsieur Marius serait en fait un lobbyiste de l'industrie viticole bourguignonne, dont il chante les louanges dans des messages subliminaux contre rémunération en liquide. Starlet nous dévoilera également, à l'occasion de cet épisode, sa passion du produit ménager fait maison. Le succès mitigé de sa lessive... qui vaudra à toute l'équipe qui mycose vaginale, qui pruritanale, ne l'empêchera pas de lancer dans la foulée la page Les Astuces de Starlet sur Facebook, histoire d'étendre bien au-delà du cercle restreint des chroniqueurs ses allergies labellisées bio. Épisode 34, découverte de Beemaker, un kit de bière vendu par Lucas Borgnon, encore un prosélyte de l'alcool, cette fois do it yourself, qui vante la parité en la matière, hein, nous invitant à offrir... pour sauver son commerce périclitant, des litrons de binous à nos mères pour la fête des susnommés. La mienne est malheureusement déjà décédée du sud d'une cirrhose, ce qui ne redressera pas les comptes de la petite start-up. Monsieur Nico me fait signe. Hein. Nous avons désormais dans l'émission une page de réclame et une coupure publicitaire. Oh, faut bien qu'il nourrisse sa famille, le tir au flanc. Hein. Vous en avez assez de devoir utiliser des alibis peu crédibles du type... Ah oh bah c'est con, je peux pas, j'ai piscine. Vous voulez être en mesure de décliner des invitations de vagues connaissances ou de votre vieille grand-mère un peu barbante, sans pour autant vous mettre en porte-à-faux? Europe & Co a la solution. Grâce à Europe & Co, il y a enfin une excuse crédible. Et Roger, qu'est-ce que tu fais le 22 octobre hein? J'organise un dîner, tu es le bienvenu. Ah non? Non, non, j'ai réservé une place pour le concert de Flotation Toy Warning à l'Almandrin avec Europe & Co. Oh, quel dommage. Je pourrais pas venir. En toute bonne conscience et sans mentir à vos interlocuteurs, refusez avec quiétude des rendez-vous que vous auriez autrefois été contraint d'accepter à contre-cœur. Et comptez sur Europe & Co. pour vous permettre de libérer le moment venu créneau, en temps et en heure, grâce à son système révolutionnaire d'annulation automatique et systématique des concerts. Europe & Co. est recommandé par les astuces de Starlet. Bah, c'est bon, monsieur Nico, c'est la seule pour aujourd'hui. Bon, bon, je continue.
C'est
hein.
La meilleure.
Épisode 35, monsieur rêve dans sa librairie le rêve de l'escalier, le top lot de la culture, le cash express du livre de poche, le action de la Pléiade, le Jiffy du Goncourt.
Tu dis voilà. Pas nose.
J'avais mis le nose à la place de top lot, mais je me suis dit que tout le monde connaissait pas. Ah, le gentil Michael. Ah, tu parles. C'est à peine s'il nous a calculé, hein. Nous étions serrés au fond de la boutique comme des réfugiés syriens dans un centre de rétention à la frontière hongroise. Ah, le gentil Michael. Si les gens savaient qu'il pousse le vice à vandaliser lui-même des boîtes à livres dans sa propre rue pour pouvoir faire le buzz le lendemain sur Facebook en faisant mine de pleurer sur la culture qu'on assassine. En outre, il nous imposera la présence tout au long de l'émission de Lady Arlette, vieille institutrice revêche, qui s'est sentie obligée de prendre sa guitare pour nous infliger un chant scout façon Jackie Quartz chantif du Teil au coin du feu. Et pour conclure, cerise trop mûre sur le gâteau avarié, l'épisode hors série du Hoopstock. Encore moins d'auditeurs que de spectateurs, c'est dire. Non, celui-ci, c'est bien simple, hein. C'est devenu une tradition, même l'équipe ne l'écoute pas. Et monsieur Nico n'accepte d'être présent sur le festival qu'à la condition de pouvoir porter des boules-quièces en permanence. Oh, quelle saison hein. Et ce cliffhanger final auquel personne ne croit là, où monsieur Nico, grisé par un 300e j'aime sur Facebook, pourtant obtenu à coups de centaines d'euros auprès d'un citrus, quitte son job sur un coup de tête en pensant vivre de l'anthropode et des retombées du site internet de l'émission, riche de la douzaine d'articles rédigés dans l'année par l'équipe, dont 10 par lui. Non, puisqu'on en parle, hein, évoquons les articles de Monsieur Lulu au Hellfest. Hein. Non, leur seule et unique qualité résidait dans le fait de nous dispenser des interminables soliloques enregistrés habituellement sur place par Monsieur Nico. Oh, et dire que Mme Starlet a simulé un pépin de santé pour qu'il reste à ses côtés et nous évite ainsi de perdre tous les auditeurs glanés à la sueur de notre front durant l'année. Bon, au final, cette saison d'entrepôts, ce furent 158 litres de bière et 214 litres de vin consommés par l'équipe. 27 albums certifiés chiant pour chiant par messieurs Freddy, Christophe et Arnaud. 9 films oubliables recommandés par monsieur Lulu, dont le fameux beignet de tomate tueuse. 12 litres de liquide vaisselle à la graisse de hérisson préparé par madame Starlet.
17 tués par Marius.
17 introductions de monsieur Marius. Un 9 pour l'émission et 8 d'objets divers dans une madame Didouille, toujours chaude comme la braise dès que monsieur Lulu a le dos tourné. 9 livres déprimants conseillés par Christophe, dont 9 de Natarte. 47 podcasts encore plus ennuyeux que l'anthropode conseillés par monsieur Nico. Et 200, ah non 20, ah non, 2 chroniques de Mme Didouille. Mais 43 tympans percés à son actif. Bon, quant à monsieur Arnaud, je sais pas si vous avez remarqué, mais il s'éclipse toujours au moment de sa chronique pour me laisser sa place. Non, même bénévole, il est clairement trop payé pour ce qu'il fait. Non, j'ai moi-même eu parfois le sentiment de m'essouffler. Tel monsieur Lulu lutinant besogneusement une madame Didouille, subissant ses mousassos dans une suite d'un hôtel mytho de Las Vegas. Tout stressé à l'idée d'être surpris par ses enfants sommeillant dans la chambre d'à côté. Et la suite de la série, pardon, de l'émission, s'annonce tout aussi mal en fait. Monsieur Nico, persuadé que telle une vedette de la télé-réalité, sa pénoplastie, destiné à remplacer sa verge difforme, va passionner les foules, lance sur YouTube son journal de bord d'un changement de vie. VIT. Non, parce que il décline le concept jusqu'à la nausée. Hein. Alors, journal de bord d'un changement de vue, après être passé chez l'ophtalmo. Ouais. Journal de bord d'un changement de vis, après son passage chez Castorama. Et Freddy, esprit faible ainsi inspiré par son gourou, lance son journal de bord d'un changement de date dans lequel il relate les multiples décalages de concerts dont il a été victime. Non, tout part à volo, hein. Tenez, depuis son passage à Rock and Talk à Saint-Brieuc, qu'il narrait dans le dernier épisode de la saison 4, Christophe se pique d'apprendre à jouer du Blender. En convaincu qu'il va ainsi donner un second souffle à Ken Kiyou, qui se remet pourtant déjà à peine du retour de sa chanteuse aux affaires. Non, en fait, à l'heure où je vous parle, j'ai le sentiment d'errer, tel notre cher président Macron sur l'île de Saint-Martin, dévastée après le passage de Didouya. Dirma. Non, le podcast est détruit à 95%. Un champ de ruines. À l'entrepôt, tout est à reconstruire. Hein. Espérons que les premières briques posées en ce jour d'épisode 36, premier épisode de la saison 5, permettront de résister un tant soit peu aux futures tempêtes qui s'annoncent. Merci de votre attention.
Merci, JR.
Merci.
Bravo.
Et t'as creusé ton sujet, hein. Mmh. T'as quand même pas tout réécouté.
Tu t'es parfait tout.
Non, j'ai un peu rebalayé le site.
Comme quoi ?
Il sert à quelqu'un au moins. Eh ben merci. Nous avons fait le tour de nos rubriques. On va passer. Bien. Freddy,
on joue.
Es-tu prêt ? On joue ? Est-ce qu'on joue ?
Moi je suis prêt et vous ?
Oui.
Ouais. Ouais. Toujours prêt.
Scoot toujours.
Ça sert à rien de noter les points, non ?
Et Marius, tout est possible.
Bah alors on prend le même principe, on fait le même principe que l'an dernier, vous vous souvenez, vous répondez, vous marquez un point par bonne réponse. Et puis la dixième question, elle est pour nos auditeurs avec cette semaine, ce mois-ci, un superbe cadeau à gagner.
What is it ?
Il s'agit d'un livre qui s'appelle... Boujou de Normandie.
Vous voulez en connaître plus sur la Normandie ?
Voilà, alors c'est typiquement les expressions qu'on utilise chez nous.
Boujou bien.
J'espère bien que c'est quelqu'un d'ailleurs qui le gagnera.
Pour qu'il se rende compte d'où on vient quand même.
Pour que notre culture soit propagée un petit peu au-delà de nos frontières.
Boujou bien, puis des gobos poulos. Ouais.
Vous êtes prêts ?
Des gobos poulos.
Ouais.
On rappellera la procédure de, pour tout gagner à la fin de tout la chronique. Alors on y va, première question.
C'est la merde, moi.
C'est actu un petit peu insolite de l'été.
Ah,
ah.
Oh,
merde. Ah, fais
chier. Ouais, parce que nous, on était aux États-Unis.
Eh ben, il y a des questions États-Unis.
On s'en bat les couilles, Jaloux.
Alors, ce mois-ci, dans le Vaucluse, un dealer de 19 ans a été interpellé par la police. Pour le client, pour ses clients, il réservait une surprise à partir de 20 euros d'achat. Laquelle ?
Quoi ? Hein ?
Un dealer de 19 ans dans le Vaucluse a été interpellé par la police. Une chose un peu cocasse, pour ses clients, il réservait une surprise quand il déboursait plus de 20 euros.
C'est un dealer de marijuana ?
Peu importe.
D'accord.
D'accord.
Il montrait son kiki.
C'est sexuel.
Non, c'est pas sexuel.
C'est un cadeau qu'il offrait ?
C'est un cadeau.
Il offrait un CD de Ken Kiyou.
Un cadeau qui se mange.
Est-ce que c'est un objet ?
Le ravage de la drogue.
Non, ça se mange pas.
Est-ce que c'est un objet ?
C'est un objet.
Est-ce que c'est également une drogue ?
Est-ce que c'est un objet ?
Ça peut être une drogue, mais c'est...
Est-ce que ça aggravait son cas ?
Non.
Est-ce que c'était des...
Un petit carré de chocolat comme quand on prend un petit café ?
Est-ce que c'était un remontant qu'il leur offrait ?
Un remontant ?
Oui, comme par exemple de l'aspirine ou un somnifère.
Un livre ?
Non.
Est-ce que toi, tu serais content de l'avoir, ce... Est-ce que c'est un médicament ?
On serait tous contents de l'avoir.
Est-ce que c'est un médicament ?
Non.
Un pins ? Un iPhone ?
Est-ce que c'est quelque chose d'utilitaire, d'utile ?
Une petite boîte ?
Alors, le mec vient t'acheter 20 euros de shit et tu lui fais un iPhone.
Est-ce qu'il offrait un briquet intitulé avec son nom dessus ?
Non.
Un porte-clés ?
Non.
Ah ben, il donnait 20% de plus de bœufs.
Est-ce qu'il offrait le papier avec ?
Il offrait un papier avec.
Ah putain, tu vois, je vais me faire cramer.
Un billet, bah.
C'est Arnaud normalement qui va donner la bonne réponse derrière. Passe décisive.
Des feuilles ?
Non.
Ah, est-ce que c'est.
Ah, ça y est,
un papier pour faire sa clope, pour faire le joint.
Est-ce qu'il offrait quelque chose qui était pour une place de concert ?
Il offrait
un certificat de qualité
Il offrait un papier de déclaration.
Un truc
à
la
douane,
suite, là, quand tu mets les tampons, là.
Est-ce qu'il offrait
un truc d'abonnement, enfin de.
Une carte de fidélité.
Une carte de fidélité.
Non, mais l'idée, c'est ça, en fait. C'est comme une carte de fidélité. Il offrait ça pour que les gens.
Un point comme sur la boîte à pizza, là.
Au bout de 10 points,
une carte de visite.
Un bon de réduction pour la fois d'après.
Non, mais je pense qu'on va y arriver bientôt.
Une place de cinéma ?
Non.
Place de concert.
Et c'est pas un truc du genre.
Il va donner un numéro de téléphone auquel le joindre la fois là.
Non, 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 non.
Est-ce que c'est pas un truc genre par exemple de la viande gratuite ou un truc chez le boucher et donc.
Un kebab.
Tu vois, non,
un ticket de tombola.
Une invitation.
Un ticket de tombola.
Mieux que ça.
Ah oui, une carte à gratter.
Une carte un à gratter.
Kélo.
Un banco.
Un techno.
Non.
Un numéro fétiche.
Un goal.
Un goal. Qui a dit goal?
Goal. Un goal, c'est moi.
Et le premier point de l'année pour Marius.
Je suis content. Un ticket à gratter, un goal à chaque client qui achetait au moins 20 euros de shit chez lui.
Mais moi, au moins, j'ai tout
le compris. Sens du service, quoi.
Point pour.
Vous avez marqué
Marius.
Vous l'avez marqué?
Il est là.
On y va, deuxième question. Alors là, c'est pour les gens qui sont allés aux États-Unis cet été.
Mais on n'a pas écouté.
Vas-y.
Alors, vous avez évidemment suivi l'actualité de l'ouragan Irma.
Oui.
Et au passage de l'ouragan Irma en Floride, ils se sont retrouvés à 900 dans l'hôtel Hyatt Regency d'Orlando. 900 quoi ?
900 crocodiles, alligators.
Non.
900. C'est des animaux ?
Oui.
C'est des oiseaux.
900 pingouins.
Non.
Albatros.
Des otaries.
900
caïmouettes.
Non, je ne l'ai pas entendu.
Des moutons. Des moutons.
Non.
Des chiens.
900 souris.
Des chiens. 900 chiens qui accompagnaient leur propriétaire, qui s'étaient réfugiés dans l'hôtel d'Orlando.
Et moi, je suis...
Donc, point Nico.
Alors,
troisième question. Il y a quelques jours, l'orchestre philharmonique de Lucca, en Italie, un orchestre italien, s'est produit à Pise. Mais qui était le chef d'orchestre?
Un robot.
Luciano Pavarotti.
Un robot. Point pour Nico. Facile, les doigts dans le nez. J'imagine que tu avais lu l'info.
Oui.
J'ai vu la vidéo hier ou avant-hier. Ouais.
Merci. Alors, Cédric.
C'était bien un robot. Le concert a été donné en fait, dans le cadre du Festival international de la robotique de Pise.
Enfin, il a que ça à faire, hein, tes journées.
C'est sûr que cette année, il va nous piler. Hein.
T'es coquin, toi.
Je pense qu'on est mort.
Alors, peut-être vous avez vu aussi, Nico, tu as sûrement vu aussi passer cette info.
Mais la pression, du coup, là, maintenant. Tu sais, ça perd mes moyens, là.
Qu'a-t-on retrouvé dans les égouts de Londres en ce début de mois de septembre 2017?
Un alligator? Non, c'est déjà fait 20 000
un
fois.
Robot,
ça.
Un robot? Non.
Un bébé?
Un goal.
900 chiens.
Des chiens.
Est-ce que c'est une c'est un objet ou une
c'est vivant ou c'est vivant? Est-ce que c'est vivant?
C'est pas vivant.
Ah.
C'est un objet ou c'est une plante?
Ça peut le devenir.
C'est archéologique. Une plante, c'est une
en
plante.
En quelque sorte.
Archéologique. Ça tient dans la main. Ça tient.
Est-ce que ça a un rapport avec le royaume?
Non.
Avec un personnage historique?
Non.
C'est archéologique, tu dis?
C'est archéologique?
Non, non, c'est en quelque sorte, mais pas du tout. En fait.
C'est-à-dire, alors quoi en sorte?
C'est-à-dire, on a retrouvé dans le métro. Donc, c'est un lieu?
Non, pas dans le métro,
dans les
égouts.
Un tampon de Lady Di?
On se rapproche, mais c'est pas ça.
Quelque chose qui a trait à la famille royale?
Non, il a dit non. Et Lady Di, alors quel rapport avec Lady Di?
Une épée?
Aucun rapport avec Lady Di.
Un bijou de la cour?
Objet,
alors, attends, c'est pas un objet, c'est inanimé, il n'y a pas de vie dedans.
De la pollution
de,
de la pollution.
Ça ressemble plutôt à de la pollution.
De la drogue.
Des non. traces de merde.
Non. Une toile.
C'est une sécrétion humaine.
Du pétrole.
Toile.
C'est pas une sécrétion humaine à proprement parler.
Une sécrétion d'animal. Donc on a trouvé des crottes de lapin par.
C'est pas une
par...
sécrétion.
Énorme.
C'est pas produit par le corps.
Ah, c'est peut-être comme un barrage fait par des castors.
Il y a une idée de barrage, effectivement.
Par les pigeons.
Bah non, de
600 litres de PQ.
600
alors, est-ce que c'est, est-ce que c'est un ouvrage fabriqué par des animaux?
Non.
Alors, ça, c'est une matière qu'on jette dans, dans les toilettes.
Des lingettes.
Ah, des préservatifs.
On la jette pas dans les toilettes. Mais c'est une matière qu'on jette.
C'est une matière qu'on jette.
Du coton?
Non.
Donc, est-ce que c'est quelque chose de fabriqué, de
manufacturé?
De manufacturé. C'est pas quelque chose de manufacturé.
C'est quelque chose de naturel.
Mais c'est pas une déjection non plus.
C'est quelque chose de naturel.
Mais c'est quelque chose de naturel. Des concrétions de pierres qui se sont formées.
Non.
Des stalactites.
Non.
Ah, des os. Des os.
Non.
Des renures d'ongles.
Des ongles, des ongles.
Non.
Ah, des ongles qui
des cheveux.
Un
non, mais c'est
un barrage de cheveux.
Ça émane du corps humain, ou enfin, en tout cas, de corps ou pas du tout?
Non.
Non, donc.
Même si le corps en contient.
De l'eau, c'est de l'eau.
Non. Un barrage d'eau.
Non, mais de l'eau. Par exemple, tu sais, des dents partout.
Les égouts, c'est bouché à cause
de l'ivoire. De l'ivoire.
Du sang coagulé.
Non.
De chair.
Non.
Des poils, des poils.
Des cheveux. De l'ébrage d'os.
Mais on va y arriver là tout de suite.
D'os.
Du cartilage.
De nez.
Non.
Des poils, des cheveux.
Déjection.
Des ongles, non.
Le caviar.
Déjection.
Du calcaire, c'est du calcaire.
Des dents.
Non.
Ah, mais oui, mais c'est. Mais oui.
Du caca.
C'est la vaisselle solide.
C'est le moment de faire une passe décisive.
La Grèce, la Grèce, la grosse Grèce. La Grèce.
Ah. Un bouchon de graisse de 130 tonnes.
Putain de sa mère. Vache.
Ils ont mis toute une journée pour
ça devait puer,
enlever
en
ça. C'est l'équivalent de 11 bus à Impérial de graisse. Le point pour Ludo. Il y a égalité là, hein.
Non,
Marius
non,
et Ludo, oui.
Ouais,
et
ouais,
moi deux.
Ouais.
À toi deux. Ouais.
On me demande, je réponds.
C'est juste pour mettre en valeur, chef.
Non, merci, Bradley.
En août dernier, une expédition scientifique s'est aventurée dans la forêt amazonienne pour retrouver la trace d'un singe que l'on n'avait plus vu depuis presque un siècle. Le Saki moine de Vanzolini. Mais quelle est sa particularité?
Il a les yeux globuleux.
Non.
Il a les yeux bleus.
Il bande tout le temps.
Non.
Il n'a pas de bras.
Non. Il n'a pas de chocolat.
Il est albinos.
C'est le plus petit singe.
Posez des questions parce que
il est albinos.
C'est une question de taille.
Il a la taille d'un colibri.
Non, c'est pas.
Il a la taille d'un mouche, une mouche.
C'est par rapport à sa génétique.
Il a la taille d'un moustique.
On se dit à chaque fois, c'est pas une question de taille.
Je suis tout à fait d'accord.
C'est une caractéristique physique.
Oui.
Il a pas de poils.
Non.
Il a un nez qui
Il a plein de poils.
Bonne réponse.
C'est la couleur de ses poils.
Réponse
collégiale.
C'est la couleur de ses poils.
Non,
tout blanc.
C'est pas la couleur de ses poils.
Il a
c'est la
localisation des cheveux, de ses
poils. Oui, mais plus précisément.
Ah, il a une raie sur le côté.
Il a une coiffure
sur le côté.
Une moustache.
Il a une coiffure de.
Il a du caviar dans les oreilles.
De moine. Il a une tonsure. De moine. Non.
Non.
Non, il porte la queue de cheval en fait.
Non.
Il est coupé à la brosse.
Mais on y est.
Un mulet.
Il a une raie sur le côté.
Non.
Comme Marius.
Il coupe à la brosse.
Il a des cheveux bouclés comme Sheila.
Il a les cheveux bouclés. Il est tout bouclé.
Sheila des couettes.
Il est tout bouclé. C'est une coupe de cheveux, c'est ça?
Ouais, on cherche.
Une coupe de punk. Iroquois.
Non.
Pas de rapport avec son nom donc.
Non.
Il a les cheveux longs.
Enfin,
il a les cheveux longs qui descendent. Il a les cheveux qui descendent.
Il a les cheveux au carré. Il a les cheveux, Mathieu.
Il a les cheveux longs.
Le Saki moine de Vanzolini.
Bah il a. Oui, donc il a une corolle de. Il a une corolle de tonsure. Oui, une tonsure.
Il a déjà dit.
Attends, quel nom ça peut être dans ces cas-là? C'est bizarre. Il est.
On cherche le nom précis et vous connaissez tous ce nom.
Il a la banane. Il a une banane. Un toupet.
Il est rouquin.
Non.
Il a une calvitie,
il a des couettes,
il a une tonsure.
Coupe à la brosse.
Si en plus de sa coupe, il est rouquin.
Il porte des tresses.
Non.
Des dreadlocks.
Des dreadlocks.
C'est une coiffure ou c'est une implantation?
C'est le nom d'une coiffure.
Coupe au bol.
Coupe au bol. Bienvenue, bonne réponse à Christophe.
Christophe,
plus grand connaisseur. Putain, j'ai dit, il a les cheveux carrés comme Mireille Mathieu. Ah,
c'est pas les cheveux.
C'est pas une coupe au bol.
Carré, bol.
Carré, bol.
Oui, bah oui. Mais il fallait pas dire au carré.
Ah non,
coupe au bol. Ouais, ça me connaît. Hein.
Je vous invite à aller voir un petit Google image. Saki moine de Vanzolini.
Mais comment on y va,
question suivante. C'est quand même serré cette année, j'ai l'impression.
Ouais,
à part Arnaud. Hein. On y va. J'ai une petite question foot pour toi, t'inquiète pas. 13 ans après leur dernière et seule collaboration artistique, ces célèbres réalisateurs et
Toy Warning, non pardon.
vont se retrouver à l'occasion du tournage d'une série intitulée Killing. Mais de qui parle-t-on?
Redis-le. 13 ans après.
13 ans après leur dernière et seule collaboration artistique, ces célèbres réalisateurs et comédiens, on cherche deux personnes, vont se retrouver à l'occasion du tournage d'une série intitulée Killing.
Lecomte et Delon?
Non.
C'est français, anglais.
Il y en a vraiment un qui est metteur en scène et l'autre qui est.
Anglais, français, américain.
En 2004?
Est-ce que c'est français?
Les deux. Il y a un français et un américain.
Et c'était dans une série télé qui leur.
Non, d'ailleurs, il est canadien.
Leur collaboration avait lieu en cinéma ou en musique?
Cinéma.
C'est du cinéma.
Cronenberg et Jeremy Irons?
Non. Un français et un canadien.
Un français.
Ville Dieu
les poils.
Non, Villeneuve.
Non.
Le réalisateur est français.
Essayez peut-être de trouver, il y a 13 ans, quelle collaboration.
Le réalisateur est français?
Oui.
Et l'acteur est canadien?
Oui.
C'est pas facile ça.
Il y a 2 points à gagner sur cette question.
Le frère Céline Dion, c'est donc Michel Dion et puis.
Acteur canadien donc.
Les deux sont ultra connus.
Acteur canadien.
Le comédien est.
Ah mais
ah,
oui,
c'est Dubosc et puis.
C'est
Dubosc
et
puis.
Est-ce que c'est
un célèbre réalisateur français, Franck Dubosc.
Est-ce que l'acteur est un comique ou un acteur dramatique?
Plutôt comique.
Ah oh, d'accord. Bon,
même s'il joue les deux.
C'est un.
Ah, Jim Carrey.
Ouais.
Oui, mais t'as pas tout.
Et Gondry.
Michel Gondry. Pour quel film ils ont travaillé
ensemble? Eternal Sunshine.
Oui, évidemment.
Ah bah oui.
C'est un point pour les deux.
Un point chacun, oui. Ils vont se retrouver à nouveau pour une série qui s'appelle Killing.
D'accord.
Que mettra en scène Michel Gondry.
Okay.
Et que jouera Jim Carrey, qui était absent des écrans depuis quelques années déjà.
C'est pas grave.
Que Nico m'a fait un petit clin d'œil avec quelques interviews assez marrantes de Jim Carrey. J'ai vu que tu avais liké aussi, Arnaud. Un point pour Arnaud, un point pour Nico. C'est ça ?
C'est tout à fait ça.
Allez, question suivante. Cet été, un adolescent de 14 ans a été arrêté par la police à Jeddah, en Arabie Saoudite, alors qu'il était au beau milieu de la route. Mais pourquoi il était arrêté ? Que faisait-il ?
Il conduisait sa voiture.
Non.
Il faisait caca ?
Il était... Jeddah, c'est où, t'as dit ?
C'est en Arabie Saoudite. C'était dans la même thématique de tout à l'heure.
Il était déguisé en femme ?
Non.
Il était nu ?
Il se prostituait ?
Non.
Est-ce qu'il était de retour de Jeddah ?
Au milieu de la route ?
Il était au milieu de la route, oui. On voit sur une vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux.
Et sur la vidéo, on voit... C'est choquant ou...
Non.
On voit ce qu'il fait. Il fait
est-ce qu'on pourrait le faire chez
on
nous
On le voit faire. Il pourrait le faire chez nous.
Il danse le moonwalk.
Et ça nous gênerait s'il le faisait chez nous.
Il danse le moonwalk.
Il danse.
Il danse.
Il danse le mien.
Le hip hop.
J'accorde le point à Marius parce qu'il danse non pas le moonwalk mais la macarena. Et donc il danse pendant 30 secondes.
On t'a connu plus petit.
Oui, j'allais dire. Le go, la carte à gratter. Bon, enfin bref, je veux rien dire.
Non, laissez-le. C'est un saint homme.
À un moment, il fait un petit mouvement arrière, donc on peut considérer.
D'accord. Il y a du favoritisme, copinage et compagnie.
Non, est-ce qu'on peut voir la vidéo ? Ça se tombe, c'est pas de la macarena.
Avec Marius, c'est pas du favoritisme, c'est de la discrimination positive.
Je trouve que cet homme est un saint homme.
On y va, question suivante.
Père la Biruite.
En juillet dernier, qu'a fait Charles Daillot, le maire de Mont-de-Marsan, suite à son pari perdu ? Pour la petite info, il avait dit « Si Barcelone se qualifie face au PSG, je... »
Démissionne.
Non.
Je me mets tout nu.
Non.
Je m'enlève la peau du prépuce. Non, c'est pourquoi pas, c'est possible.
Je me rase la tête. Non.
Je vais sur le terrain tout nu.
Je me déguise en femme.
Je sens merde.
Mon poulain va t'avoir.
J'ai entendu. C'est un pari débile
pense,
ou pas
pense,
ah oui,
pense.
Forcément.
Est-ce que c'était un pari facile à faire ? Ah, c'était un truc facile à réaliser.
Il se rasait les cheveux.
On l'a déjà dit.
Est-ce que toi tu le ferais ?
Il m'a mangé son chapeau ?
Peut-être que quelqu'un autour de la table a déjà fait.
Ah moi
qui,
oui c'est vrai
qui
c'est
ouais, déjà
c'est Ludo le champ
des
possibles
on lui a uriné dessus.
Mais il a fait ça alors attends il a fait ça parce qu'il a perdu
oui
il bah a
oui,
perdu
puisque,
son pari il a dit
finalement le Barça a battu le PSG et l'a éliminé
donc du coup il a dit si c'est ça ouais il était sûr qu'il allait gagner quoi donc c'était un gros truc.
Ah oui.
Et qui, selon toi, qui l'aurait déjà fait autour de la table ?
Ah mais non, ça va être trop facile.
Est-ce que c'est
Il a bu 20 litres de bière ?
Est-ce que c'était en public ?
C'était en public, à l'occasion de la fête
chanter,
de la ville.
Il devait chanter l'hymne de... Non.
Il a dû manger un tas de saucisses, il a dû manger quelque chose.
Oui,
manger de la merde.
Et maintenant, je vais devoir deviner ce qu'il a mangé, c'est ça ?
Ouais, bah oui.
Alors on m'autorise le machin, lui ça va, la macarena, machin, ta mère et tout. Et moi, alors,
il devait manger de la paella.
Et là, je vais perdre.
Oh le nom, ça...
Non, il a dû manger des gésiers parce qu'il habite à Mont-de-Marsan et donc il a dû s'enfiler du Périgord. De la graisse d'oie.
Non.
Il a dû s'enfiler de la graisse d'oie. Du foie de canard,
ça
y est, du foie gras. Il a dû se gaver comme une machin.
Il a perdu son pari, donc il a dû manger du foie gras.
Non, mais se gaver quoi.
Mais ouais, les oreilles, la queue ou un truc comme ça, non ?
Il devait manger.
Il a dû manger la queue du footballeur qui a gagné, non ?
Non ? Il devait manger des couilles de taureau.
Non.
Il devait manger un truc animal ?
Oui.
Est-ce que c'était un truc cuit ?
Des yeux ?
Oui.
Des boyaux, des abats ?
La fraise de veau.
Et pas le groupe.
Mais c'est dur, ça, quand tu convines ça, il a mangé un truc. Donc, qu'est-ce que c'est ça c'est...
Parce que c'est une expression qu'on peut utiliser en disant bah, s'il gagne pas, je.
Mange mon chapeau.
Non.
Bah, pas bouffer les couilles, non. Il va bouffer les couilles d'un animal, quoi.
Non.
Une le poule cul. Il a mangé une poule.
Je te préviens, je bouffe le cul de. Non, tu le dis pas, en fait.
Le hérisson, le cul.
Est-ce que c'est scatologique ?
Quelqu'un qui a mangé un hérisson ?
La merde, non, il a mangé de la merde cuite
Ouais, un raton laveur.
Il a mangé un écureuil.
Non.
Est-ce que c'est un. Alors, c'est.
Est-ce que c'est l'animal ? C'est une partie de l'animal ?
C'est
manger de l'animal.
Non, c'est l'animal.
D'accord.
Il a mangé un animal ou il a mangé.
Un animal sauvage.
Il a mangé un animal ou il a mangé une partie d'un animal ?
C'est un animal sauvage.
Un sakimoine de renard.
Un renard.
Je mange un dahu. Il a mangé un dahu. Mais comme ça n'existe pas, il était un peu emmerdé.
Un ragondin.
Un ragondin ! Bravo, Marius !
Je savais bien. Ça a mis du temps à venir. Mais ça s'est sorti.
Maintenant, qui est susceptible autour de la table de manger un ragondin ?
Non. On a mangé quand on était petit.
Points.
Égalité avec Nico.
Ouais, mais je sais pas, j'ai la Gaule. J'ai la baraque.
Il a mangé.
Alors... J'ai la Gaule. C'est ce qu'il a dit.
J'ai la Gaule à cage.
Alors, la baraque.
Je l'ai offert ou pas celui-là?
Ah non, non, il était cherché celui-là.
Alors.
Et Freddy.
Oui.
C'était quoi ma question? Attends.
C'est moi qui
l'a mangé.
Oui, et il a dit qu'il ferait, mais il l'a fait.
Oui, 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 parce que
il l'a fait.
Il est à la fête de la ville et on lui a apporté le ragondin cuisiné et il a dû le manger.
Bah, c'est
un ragondin.
Bah, bien cuit.
Son témoignage, c'est excellent.
Des raisons.
C'est ce qu'il a dit.
C'est très bon le ragondin.
Ah bon?
Ouais.
Totalement. Bon,
tu vois, finalement, c'était Christophe qu'on avait déjà mangé.
Moi, j'en ai mangé, au Togo, c'est très bon. Hein. Bah oui.
Ah, 3-3, je suis à égalité avec Nico. Ouais. Ouah, comment je suis trop intelligent.
Il reste plus qu'une question.
Allez, non, il en reste deux.
Je peux, on peut arriver à l'égalité quand même.
Non,
on est à 1.
Écoute, tu joues
à
2 jours, petit.
On est à
1. Question sport. Question sport.
Oh putain, je suis.
On a beaucoup parlé de l'attribution des JO à Paris en 2024. À cette occasion, les dirigeants d'une discipline très française.
La boule, la pétanque.
Oui, il me laisse pas finir, mais c'est bien la pétanque.
On sent la hiérarchie.
Pratique faire leur apparition, son apparition aux JO à cette occasion. De quel sport parle-t-on?
La pétanque.
Bien joué.
La tempé.
Ok. La question qui suit s'adresse à nos poditeurs.
Et ouais.
Je vous rappelle comment on peut participer. Vous mettez un petit hashtag l'entrepod ou bien vous nous mentionnez sur Twitter, sur Facebook. Sur quoi d'autre, Nico?
Puis vous donnez la bonne réponse surtout.
Et surtout, ouais. Par MP, par DM ou en public, comme vous voulez.
Ou par mail, si vous préférez les mails, podcast@entrepod.fr.
Par courrier, tu as l'adresse postale.
On a l'adresse postale, c'est. Non.
Il y en a qui jouent. Il y en a qui jouent.
Minitel 3615 Entrepod. Ouais. Je vous rappelle que ce mois-ci a gagné, vous aurez la photo prise par Arnaud sur le site. Nous avons Boujou de Normandie, dictionnaire humoureux et savoureux. Voilà. C'est pour vous, amis poditeurs. On l'a appris aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est quel jour
On est vendredi.
On est vendredi 15 septembre. Un commando cagoulé et armé de l'Ariège souhaite rétablir cette pratique dans son département. De quelle pratique parle-t-on? On laisse un petit temps. En fait, le montage fait que...
Voilà. Le temps.
Le temps, c'est le temps, quoi. Laisse répondre, amis poditeurs. Vous cherchez sur Google si vous ne trouvez pas.
Et maintenant, ça va s'étriper autour de la table.
Alors, c'est quoi?
Allez-y.
Et je vous propose, du coup.
Il me remercie toujours pas. Pardon,
merde. T'es pas déjà dit? Ouais, non, mais... Eh ben merci.
Ah, bah, cool.
Tu devrais les enregistrer pour leur mettre chez soi le même. Faut que je fasse un jingle spécial. Merci, Freddy. Donc, merci, Freddy. On va passer maintenant.
3 points, moi.
3 points, oui, bah oui, quand même, Marius, bravo.
Ouais, on n'a pas récapitulé.
Récapitulons, donc. J'ai moi-même 4 points.
Commence par humilier ceux qui ont 0. Ouais.
Starlet Didouille.
Ah, gueule.
Le point commun. Il n'y avait pas de rubrique.
Comme par hasard.
Très peu d'investissement.
Ouais,
Ludo, 1 point.
Saison du Parma.
Christophe, 1 point. Arnaud, 2. Marius, 3. Et moi-même, 4.
Trop content.
C'est bien, chef.
Je suis content.
On voit celui qui a pas repris le boulot.
Exactement. Mais alors, je vous force pas à y aller, moi. Mais donc quand même, merci Freddy. Et on va passer
merci
pour
Freddy.
Terminer.
Quatre fois là. Merci Freddy.
Ah, mais, je voulais être sûr qu'il y en ait un qui soit bon, que je puisse le garder. Bon, je vais réussir à le placer. On va passer maintenant.
Merci Freddy.
Pour terminer, on va passer aux 60 secondes chrono. Avant de perdre Ludo, je te propose de commencer.
Oui, après il va être trop tard là.
Je sens que là, on approche de minuit.
C'est vrai, mais en plus, c'est vrai que d'habitude on le fait plutôt le samedi et là, et dans l'après-midi, et là c'est. La fin de semaine et c'est
dans l'après-midi
du soir. C'est ton coup de gueule.
Je vois gueuler contre le voilà, c'est ça.
Son coup de mou.
Qui disait qu'il y a un petit coup de Schweppes.
Non. Du Schweppes, Marius, mais qu'est-ce qui se passe?
C'est fou cette soirée, on tourne au Schweppes et puis on s'endort. Wow. Ressortons la tisouille.
Tu es prêt, Ludo?
Oui.
Allons-y, c'est parti.
Coup de cœur, en fait, c'est
5 secondes.
Oui, le temps passe, ça c'est cool, c'est pratique. Non. J'ai pas un coup de cœur sur quelque chose qui vient de sortir. En fait, en réalité, je suis en train de relire ça de Stephen King. Ça va sortir le 20 septembre sur les écrans. Et ça faisait un moment que je voulais le relire. C'est un bouquin qui m'avait vraiment marqué très fortement quand j'étais vraiment plus jeune. Hein. Quand je l'ai lu, j'avais à peu près 18-19 ans. Et voilà. Et en fait, je me rends compte à la relecture que c'était un vrai, vrai plaisir. Ce bouquin-là est vraiment, pour moi, est un des sommets de l'art de Stephen King. Donc, d'aucuns pourront trouver ça trop long, trop verbeux, etc. Moi, je trouve ça fantastique parce que ça creuse vraiment les personnages sont vraiment très fouillés, donc on s'accroche vraiment à ce qui arrive aux personnages. Je vais pas rentrer dans l'histoire, etc. À vous de découvrir, mais en tout cas, allez le lire, c'est vraiment chouette. Sinon, allez le voir au cinéma. Voilà.
Merci Ludo. Parfait, tu peux retourner te coucher. Didouille, t'es prête?
Oui.
Prêt. Party.
Alors moi, mon coup de cœur, c'est un coup de cœur pour un film. Qui avait remporté pas mal de prix. J'ai pas eu l'occasion de le voir. Alors je l'ai regardé dans l'avion. En allant.
Non, j'y crois pas.
Bah ouais, je l'ai placé. Donc ce film, eh ben c'est Lion, du réalisateur Garth Davis, avec en vedette Nicole Kidman, Rooney Mara, Dev Patel. En fait, bref, ce film, c'est ni plus ni moins une bombe d'émotions. Donc j'ai pleuré au début. Et Ludo, il m'a vu, j'ai pleuré au milieu et j'ai pleuré à la fin. Et bref, ça m'a complètement retourné. C'est d'une vérité absolue, c'est poignant, c'est juste exceptionnel. Voilà. Donc ce film, pour moi, c'est une belle claque et une belle découverte. Par contre, vous le conseille vivement en version originale.
Merci.
Stop. Merci.
Ouh, ouh. Marius. C'est parti.
Donc moi j'ai découvert sur France Inter encore un groupe que tout le monde connaît apparemment, j'ai encore passé pour un con, LCD Sound System. Donc il vient de sortir un nouvel album American Dream, mais du coup quand j'ai voulu essayer l'album n'était pas sorti. Donc moi je reviens sur le live. Ils ont sorti un live en 2011. Un live qui fait 3h20, donc j'ai pas pu l'écouter encore en entier. Je roule pas assez pour ça. Et c'est vachement bien. J'ai complètement découvert et accroché à cette musique semi-électronique. C'est y a plein de mélanges. Moi, ça me fait penser à des trucs que Ludo m'a lancé. Ton groupe à toi avec
Kenkyu.
Non, pas Kenkyu. C'est un mélange un peu. Ça me fait penser. Enfin, pour moi, il y a plein de. Il y a plein de choses qui ressortent. Et les morceaux font quasiment 10 minutes chaque.
Joy Division.
Pas Joy Division. Quoi?
Pourtant la basse.
3, 2, non plus. Nine Inch Nails.
Ah, Nine Inch Nails. Voilà. Ah.
Je, après, c'est peut-être moi, hein, mais. Ouais. Certainement moi aussi.
Starlet, je sens que tu t'endors aussi, toi, à ma droite.
C'est sûr.
C'est parti.
Alors, le dernier album de Queens of the Stone Age est sorti là récemment, le 25 août dernier. C'est pas un coup de cœur, c'est pas un coup de gueule, c'est plutôt une déception en fait. Je suis vraiment déçue. Autant j'avais adoré l'album Like Clockwork de 2013 qui m'avait complètement embarqué, autant celui-là j'ai essayé la tournée plusieurs fois, mais alors il n'y a rien qui m'a happé. Peut-être que je le compare trop au précédent, qui m'avait vraiment bien plu. Voilà. Donc c'était mon petit coup de grisou. C'est l'album Villains de Queens of the Stone Age.
Merci Starlet.
Je partage ton avis.
Arnaud, t'es prêt? Je vois que tu reprends des notes.
Ouais, c'est bon.
C'est le bordel sur sa feuille.
Sur sa table.
Dans sa tête. C'est parti.
Donc je voulais parler d'un comics Sweet Tooth. Je sais pas comment on dit. Ça veut dire bec sucré en anglais. Ah. Une pandémie a décimé la quasi-totalité de la population et une race hybride mi-homme mi-animal est apparue. L'histoire raconte, suit un Gus, un enfant au bois de serre, qu'on voit sur la couverture du premier tome que j'ai là, dont le père est décédé, qui se retrouve seul et qui commence un périple à travers l'Amérique. Il va croiser la route de Shepherd, une espèce de brute épaisse, et on va suivre au gré de leur péripétie l'évolution de leur relation,
découvrir l'histoire avec un petit H de chacun et aussi l'histoire avec un grand H qui a mené à la pandémie. Une ambiance post-apocalyptique façon La Route. C'est de Jeff Lemire au dessin et au scénario, un Canadien, je suis allé voir, Canadien, effectivement, 3 tomes de 300 pages pour une histoire qui tient ses promesses jusqu'au bout des 900 pages au final. Mais voilà, très chouette, franchement, je conseille.
T'es prêt, Christophe ?
Oui.
C'est parti.
Donc moi, je vais vous parler d'un album inédit et acoustique de Neil Young qui s'appelle Hitchhiker. Album enregistré en une nuit, le 11 août 1976, avec simplement une guitare, une harmonica et un piano. 10 titres composent de cet album, 8 d'entre eux sont déjà connus, puisqu'il les a réenregistrés par la suite pour différents albums qui ont suivi. Mais les écouter dans leur format originel, et je trouve ça assez extraordinaire, et surtout, on découvre 2 titres complètement inédits, dont celui qui passe. Expérience assez inédite qui rappelle tout le talent de Neil Young. Et dans une interview, il dit ceci, ce sera ma conclusion. Il était 2h du matin quand on a fini la session. On l'a fêté. On savait qu'on venait de faire un sacré truc. Après, nous sommes partis tous les trois au bord du Pacifique, voir la pleine lune s'y refléter. C'était magnifique. Les vibrations étaient fortes. Je les ressens encore aujourd'hui. Et quand on écoute cet album, eh ben, franchement, elles y sont les vibrations.
Je comprends que t'es craqué sur Christophe, Arnaud. Parce que quand il parle comme ça, moi.
C'est surtout ses vibrations.
Freddy, tu veux, je te laisserai conclure.
Ah oh oui, vas-y.
Ou moi je le fais et puis toi tu concluras comme ça.
Tu veux.
C'est parti. Donc, moi je voulais vous parler, bah bien sûr, t'as reconnu, je voulais vous parler du retour à Twin Peaks qui vient de s'achever pour mon plus grand plaisir personnellement. J'ai adoré donc retourner dans cet univers complètement barré. Je trouve qu'en 2017, c'est une série qui ose aller complètement à contre-courant de tout ce qu'on peut voir par ailleurs. Parfois, elle prend peut-être un peu trop son temps. Ça mériterait peut-être une heure ou deux de moins sur l'ensemble. Les effets numériques sont parfois complètement à la ramasse, mais par contre, ça contribue à la patte surréaliste, abstraite, avec certaines scènes qui sont complètement contemplatives et un épisode 8 qui est hypnotique au possible. On comprend pas tout, enfin moi en tout cas, notamment la fin, et c'est souvent imprévisible. On a une continuité avec la série originale, même si on peut reprocher que ça se passe très peu à Twin Peaks et que certains personnages sont là que pour le fanservice, mais c'est vraiment, on a une ambiance, on a une atmosphère, on trouve ce qu'il faut. Il y a un coup de cœur particulier pour Kyle MacLachlan que je trouve extraordinaire, excellent comme à son habitude. Et aux petites conclusions musicales interprétées sur scène par des artistes différents à chaque fin d'épisode. Bref, si vous voulez quelque chose qui vous change des formats habituels et qu'on peut retrouver en ce moment, je vous invite à aller l'écouter. Le regarder.
Ah ouais, est-ce que je comprends plus rien.
Freddy, à ton tour, tu es prêt ? C'est parti.
Moi, je vais vous parler de la Demoiselle de Wellington, de Dorothée Piatek, qu'on connaît bien ici, qui est déjà venue dire quelques mots au micro. Je vous donne le pitch de son dernier livre. Pendant la Première Guerre mondiale, une véritable ville souterraine a été construite sous la ville d'Arras. De là, des milliers de soldats ont déferlé par surprise sur les lignes allemandes. Un officier anglais raconte l'interminable attente, puis l'assaut dans la boue, le froid et les éclats d'obus. Un récit illustré, poignant et intimiste. Moi, à mon avis, c'est évidemment une histoire poignante, c'est très bien écrit. On est embarqué dans une histoire basée sur une histoire vraie, comme souvent avec Dorothée Piatek. Et puis un petit coup de gueule aussi, parce que le jour où j'ai fini le livre, bah, on a appris une mauvaise nouvelle de l'auteur elle-même, qui a annoncé sa prise de recul. Le succès, aussi présent soit-il, ne suffit pas à la faire vivre de son art. Elle va donc prendre un peu de recul, on ne peut que déplorer cette situation. Ça s'appelle, en tout cas je vous conseille, La Demoiselle de Wellington, c'est aux éditions du Seuil, et ça coûte 12 euros.
Merci. Et bah donc, on arrive à la fin de cet enregistrement, donc... C'était vachement sympa de se retrouver, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui.
Il y en a 2-3 qui s'endorment dans les coins, mais bon, à part ça,
ils
sont plus habitués. Hein. Bon, c'est la rentrée, on a un peu de mal à s'y remettre, mais bon, en tout cas, on a passé un super moment.
On a aussi notre journée de boulot dans la...
Oui, parce qu'on travaille, nous.
Le jingle.
Voilà. En tout cas, si vous avez passé vous aussi un bon moment, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec des petits retours, et puis s'il y a des choses à améliorer... On ne sait jamais.
Ouais,
je pense qu'on est déjà arrivé quand même au top du top là maintenant, mais on ne sait jamais.
Plutôt super bon. Quoi.
En tout cas, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, sur le site entrepod.fr pour lire nos 12 articles de l'année, ou par mail à podcast@entrepod.fr.
aussi pour donner vos réponses au quiz.
Au quiz, par exemple, comme vous voulez.
0-2-35.
Il y a un écho là qui se fait, ça veut dire que le logiciel il va rabber.
Ça rebug, toi ?
Ouais, enfin, ça fait un écho là.
Hein ? Non,
ça va. Nicolas ?
Nicolas.
Non, lance pas Didouille, lance pas Didouille, non, parce que c'est bon.
Vas-y, et toi ?
Non.
La première, la magnifique pour toi.
Merci Arnaud. On a toujours aussi notre Tipeee de dispo. Hein. Ouais. Donc si vous voulez nous laisser un petit pourboire symbolique ou plus conséquent pour nous soutenir, il n'y a pas de problème. On se retrouve. On se retrouve le mois prochain. C'est pas encore si on aura un invité qui viendra se joindre à nous, mais on va reprendre notre habitude. Et puis d'ici là, où est-ce qu'on peut vous croiser, pardon, les uns les autres autour de la table ? Est-ce qu'il y a des événements, des choses, des lieux où on peut vous retrouver, Christophe ?
Moi, je suis nulle part et partout en même temps.
Tu es comme Dieu.
Je suis comme Dieu. Voilà. Plus on me cherche, moins on me trouve.
Omniprésent, omnipotent.
God Almighty.
Et suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis.
Oh, ben, on va continuer comme ça. J'en ai d'autres, non ?
Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras.
Ah, ouais, faut laisser le temps au temps, hein, puis on le retrouvera. Didouille.
Sur.
Non. Sur le. Un, peut-être un
sur
petit Ludo, de l'entrepôt.
Sur Ludo, ouais.
Et puis t'as Ludo qui nous fait oh ma Didouille.
Sur le dos ou sur Ludo. Ça dépend.
Peut-être, ça dépend des moments.
Ça dépend, c'est variable.
Et toi, Ludo, c'est variable aussi ? Où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Bah non, mais j'ai.
Attends,
mais j'ai déjà fait en fait dans ma femme, alors donc je veux là. C'est...
T'as même pas un site internet t'avais 3 mois de vacances là pour préparer un site.
Ben en fait en ce moment il y en a pas mal qu'on fait, mais sinon il y a Purulence Gustative qui est plutôt un site qui est assez
du tac au tac quand même.
Et voilà, sinon allez-y, n'hésitez pas, surtout voilà.
Non. Bon, ça c'est la fin des récos, on passe à Marius.
Alors moi vous pourrez me retrouver le 8 octobre sur Opus Moto pour déguster nos frites et autres saucisses et andouillettes. Nous serons en phase de en face d'Hermès quasiment, donc Val de Reuil le 8 octobre, venez manger des frites et des merguez.
Super.
Tu tiens le stand?
Ouais.
Ah, oui.
Ah bah oui, sinon je ferai pas de la pub, hein. C'était le concurrent, on ne donne rien.
Et sinon sur Marius Shooting aussi, pour tes magnifiques clichés.
Ouais, mais là je prends pas de thunes. Faut mieux venir manger des frites et des merguez.
Des super photos de merguez.
Ouais, Marius Shooting.
Rappelle les dates, Marius.
Non, Marius Shooting, ouais, j'y pensais pas.
Mais pour les frites et les merguez, c'est quelle date ?
C'est le 8 octobre, venez manger des frites et des merguez, des andouillettes, saucisses, merguez, andouillettes,
des
frites, saucisses. Non, nous n'avons pas le droit, le comité s'en charge. Le salaud.
Oui, parce que tu peux pas utiliser du coup ta maquine à crêpes là.
Ta belle crêpière.
Non.
Ta crêpière.
Non, par contre, je suis peut-être mais aussi en projet à un festival de guitare dans le 92, le 1er octobre.
On t'arrête
justement
plus.
Où Gaïdic joue.
Et ça dit où est-ce qu'on à quel concert on a des chances de pas te retrouver.
Alors, si Arnaud porte pas la poisse. Vous pouvez retrouver par exemple le 22 septembre au Calife à Rouen pour un concert de Oiseau Tempête avec Monsieur Wolf en première partie dans le cadre des 20 ans de la librairie Le Rêve de l'Escalier que tout le monde connaît.
C'est
maintenant.
Quoi Le Rêve de l'Escalier?
C'est un coiffeur. Et puis sinon sur Twitter, Freddy Lam, tout attaché.
Très bien. Arnaud, où peut-on te retrouver prochainement? Il est tout attaché sur Twitter, tu verras. Il est fait du bondage.
Ça, c'est pour ma tarte au poids. J'ai le prochain sujet, n'est-ce pas?
Vous pouvez aussi me retrouver parfois sur le. Enfin, dans la chambre d'Arnaud et Christophe.
Ils matent. Oui, mais... Dans un coin dans le noir.
Oui, mais pas tout le temps.
Vas-y, tiens, justement.
Non, bah moi on me retrouvera normalement si c'est pas European Co. Je dis ça, on est mal placé. On avait décalé de mai à décembre maintenant, donc mais du coup pour deux représentations, les deux samedi 2 et dimanche 3 décembre, où on joue la Poison de Sacha Guitry à Saint-Martin-de-Beaucherville avec la troupe d'ensemble Saint-Martin-de-Beaucherville, et donc on peut réserver à
dès maintenant.
Ouais, dès maintenant.
On réserve dès maintenant.
Ouais.
C'est où ça dès maintenant?
Ensemble Théâtre. En envoyant un mail à Ensemble Théâtre, tout attaché et sans accent, @outlook.fr.
Très bien.
Une centaine de places à chaque fois.
Centaine. D'accord,
que tu offres une centaine de places.
C'est sympa ça. Pour les premiers qui écriront à l'entrepode et qui mettront.
Il est malin parce qu'il fait sa pub maintenant, mais il pourra la faire aussi dans celui du mois d'octobre et du mois de novembre.
On n'a pas des places privilégiées pour l'entrepode ?
Genre gratuite.
On a pas des places, t'aurais pas des places à faire gagner
elles
d'ailleurs.
Sont tellement pas cher que c'est
58
gratuit,
euros
quoi.
Gratuit, c'est pareil. Excuse-moi.
Starlet, où peut-on te retrouver?
T'as parlé de la page des astuces de Starlet tout à l'heure. Ça a changé de nom, ça s'appelle Ma Popote maintenant.
Pourquoi ça?
Parce
pourquoi
que.
Pourquoi pas mon popotin, ma popote, pourquoi
non,
pas
ma popote. Ma popote parce que je vais mettre aussi des recettes de cuisine.
Ah, t'as mélangé les deux.
Voilà, la popote c'est quelque chose qu'on utilise
pour
faire
machin et tout ça.
Voilà, et du coup je suis en train de peaufiner mon blog et puis je vais bientôt le lancer.
Avec son célèbre gratin au dentifrice d'eucalyptus.
Voilà.
Par exemple, vous allez vous régaler. Et moi-même, c'est Narguilé sur Twitter. J'ai lancé une page YouTube, hein, Journal de bord d'un changement de vie, où vous pouvez suivre un petit peu mes péripéties de mode de changement de vie. Et puis voilà, peut-être un
aucun piège dans les aucun...
ça, c'est ah, ça, mais moi, alors vous,
là, maintenant, ça va être irrémédiable.
Les licences poétiques, moi, j'en fais aucune. Et puis, je vous retrouve d'ici un mois, j'espère. Tous là, hein. Il n'y a personne qui va nous faire défection en cours d'année.
Ça dépend quand tu fais le truc, il ne faut pas que ce soit pendant les vacances, hein, soit des fois là. Quoi.
Je ne sais pas pourquoi j'ai posé la question en fait. Erreur de ma part, voilà. Et puis on espère que vous avez passé un super moment. Nous, on s'est bien marré à se retrouver.
Nous aussi. Hein.
Ouais. Soyez contents, écoutez des podcasts, soyez curieux. Et puis on vous dit allez, bisous.
Bisous.
Salut.
Bisous. Ciao.
Des bouillous.
Bonne nuit.
Bouillous de Normandie.
Je raconte l'histoire.
Ah, vas-y.
C'est l'histoire d'un Chinois qui a un chien qui s'appelle Wawa. Un beau jour, le Chinois mange son chien. Le lendemain, il chie Wawa.
Bon voilà, les trois auditeurs qui nous restaient.
Ah ouais.
Ouais, c'est perdu.
Là. Ouais, pas dans la merde là.
Je veux dire qu'il y a deux minutes, ils s'endormaient, on était tranquilles quoi.
C'est ça.